Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, on va vous parler de Silent Hill qui fait son grand retour, du scandale autour de Bayonetta 3, de plein de jeux comme Hell is Others, A Plague Tale Requiem, Marvel Snap et de tout le reste de l'actu jeu vidéo tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 264 du Rendez-vous Jeu. On est en octobre 2022, je suis de retour dans ma, ce qu'on peut dire, forteresse de solitude. C'est parce qu'il fait très froid là en Finlande, mais je suis avec mon setup habituel qui a fonctionné. J'ai allumé l'ordinateur après 10 jours, il a marché. C'est fou, j'ai pas l'habitude, même le setup OBS a fonctionné. Et donc, on est en live sur Twitch également. Bonjour à tous les Twitchos qui nous rejoignent. Pas de fils qui crie qu'il a gagné la couronne d'or à Mario Kart aujourd'hui. Mais par contre, des invités de prestige, de talent et de beauté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme je disais, c'est l'un de mes critères de sélection, l'un des nombreux critères de sélection. On ne prend que les gens qui ont toutes les qualités. Et en premier lieu, on a ici Julie Le Baron qui nous rejoint comme tous les mois dans l'émission. Salut Julie, comment vas-tu ?
Salut, bah ça va super bien. Écoute, parce qu'on va parler de Silent Hill pendant un bon bout de temps, donc je suis hyper
combien
contente.
40 minutes, 50 on va faire toute l'émission sur Silent Hill. C'est vrai qu'il...
Ah, je suis chaude en tout cas.
Écoute, on va voir ça, combien de temps on va passer dessus. Et on a également Mehdi Campras, El Médoc, qui a pris un tout petit peu de temps sur sa préparation de la vidéo d'arrivée de Kevin avant l'enregistrement du Cody Corner pour nous parler dans le rendez-vous jeu. Comment ça va, Mehdi ?
Ça va très bien, merci.
Tu sais que c'est l'un de mes plaisirs, quasiment quoi, tu les postes presque toutes les semaines ou toutes les deux semaines ?
Toutes les deux semaines, ouais, ouais. Tout à fait.
C'est l'arrivée de Kevin pour l'enregistrement du Cody Corner. Ça, c'est le bonheur quand ça arrive sur Twitter.
Eh ben, figure-toi que c'est un de mes plaisirs aussi. Donc voilà, on a un nouveau point commun.
Et un truc que j'aime beaucoup, vous savez... L'un de mes nombreux plaisirs aussi dans l'émission, c'est évidemment faire l'émission et faire l'émission pour les auditeurs qui prennent du plaisir à l'écouter. Mais il y a aussi de temps en temps un moment où les invités ne savent pas qui va avec qui ils vont être dans l'émission. Et parfois, c'est genre « Oh, mais c'est toi, salut, comment ça va ?» Et c'est genre, je choisis des gens cool que j'aime bien, dont j'aime ce qu'ils font, leur compétence, leur professionnalisme. Puis parfois, ils disent « Oh, salut, comment ça va ?» machin. Ils se retrouvent, ils sont contents. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'espionnais sur Discord le chat avant qu'on lance l'enregistrement. Et j'étais tout content, je souriais, comme un...
Bah oui, non, c'est...
Bah oui, quel plaisir de retrouver Mehdi.
Ça fait plaisir. Ouais.
Donc, bah écoutez, on a une équipe qui est partante pour parler de toute l'actu. Il faut quand même que je remercie le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, notre ami suisse. Je ne dis pas de bêtises, oui, il est suisse, Steph, qui soutient l'émission depuis 3 ans. Là, c'est son 3e anniversaire de soutien. Il est producteur, donc responsable de cette émission, de cet épisode spécifique. Donc, merci à toi et on va essayer de faire honneur à ta longévité et à ton soutien. Pour l'émission en elle-même, le fait que je sois de retour à la maison, ça veut aussi dire que pour le plus grand bonheur de tous les auditeurs, on a les jingles. Donc, pour lancer la section Info à retenir, on a ce jingle qui se lance. Ça, c'est le bonheur de tout le monde, sans aucune controverse. Pas de controverse non plus pour Silent Hill, comment ils l'ont appelé ? Silent Hill Transmission.
Transmission, mais oui.
Ouais, la transmission de Silent Hill après, on peut dire, des années de rumeurs, de spéculations, de qui allait faire de quoi de Silent Hill ou comment. Eh bien, on a enfin eu un message de Konami qui nous a ramené toute une série de news Silent Hill qui a fait exulter certains auditeurs et certains spectateurs, certains joueurs qui attendaient ça avec grande impatience. Alors, je ne vais pas vous faire attendre, vous, que Konami l'a assez fait. On a 3 jeux et 2 projets cinématographiques. On a un remake de Silent Hill 2 qui revient donc sur PC et PlayStation, donc console exclusive sur PlayStation 5. Un nouveau jeu qui s'appelle Silent Hill Townfall, qui est développé par No Code, entre parenthèses, oui, le remake de Silent Hill 2, c'est Bloober Team qui le développe, donc un développeur quand même adapté à ce genre de jeu. Silent Hill Townfall, dont on n'a pas énormément d'informations, qui a l'air d'être un genre vraiment complètement différent de ce qu'on a vu pour le Silent Hill plus classique, mais vraiment, on a quelques... C'est vraiment un teaser, quoi. On pourra en parler dans un instant. Et surtout, le gros reveal à la fin, c'était Silent Hill F, qui est un nouvel opus dans la série de Silent Hill, qui là, pour le coup, est un vrai nouveau jeu, qui se passe au Japon, d'ailleurs, ce qui est un petit peu surprenant pour Silent Hill. Mais il se passe au Japon, et là, ça a l'air d'être... On a juste eu un trailer en image de synthèse, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment un truc d'intention, d'ambiance, qui est bien, bien creepy. Et donc ça, c'est les trois jeux. On va en parler dans une seconde. Mais il y a aussi deux projets cinéma. D'une part, un deuxième film Silent Hill réalisé par Christophe Gans, qui avait fait le premier, qui était plutôt l'un des rares films jeux vidéo, le premier à être, qui a 15 ans maintenant, à être plutôt apprécié des fans. Les adaptations jeux vidéo, on sait que c'est pas toujours très réussi. Là, c'était peut-être pas le plus grand film de l'histoire, mais en tout cas, il respectait bien l'univers de Silent Hill. Et puis, une série interactive dont on n'a pas encore tous les contours non plus, mais qui est vraiment une série vidéo, quoi, qui est prévue pour être regardée sur Twitch avec des choix de la communauté qui vont changer l'histoire, en fait. Ça me fait presque penser à un jeu genre Dead by Daylight ou un truc comme ça, les trucs que les streamers aiment beaucoup faire. Ça a l'air d'être calibré pour les streamers. Mais du coup, ça fait beaucoup de projets, beaucoup de choses qui ont été annoncées. C'est un retour de la série en force. Et puis, comme je le disais, c'est une série qui a un statut un petit peu culte et dont on attendait avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'angoisse même de savoir ce qu'il allait en advenir, parce que Konami s'est détourné du jeu vidéo il y a quelques années. Maintenant, il semble commencer à s'y réintéresser un petit peu. Mais donc, on avait peur même que Konami laisse tomber, ne revienne jamais à Silent Hill. Et là, bah, c'est de retour. Et bah, notamment, Julie, tu semblais dire que toi, tu étais hyper, hyper excitée de ce retour. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces annonces, dis-moi ?
Eh bien, justement, moi, en fait, j'attendais avec un peu d'appréhension cette conférence. Enfin, même si il y avait quand même ce côté assez agréable d'avoir enfin des nouvelles, parce que ça faisait un moment qu'on avait des rumeurs, notamment concernant l'arrivée de la Bloober Team et le fait qu'ils allaient travailler sur un projet Konami. Mais c'est vrai que, enfin, la dernière fois qu'on a eu des vraies nouvelles de Konami et de la licence Silent Hill, c'était le moment où ils ont arrêté le projet Pity, donc qui devait impliquer Hideo Kojima, Junji Ito et tout un tas de gens bien. Et depuis, bon bah voilà, ils s'étaient un peu détournés de la licence pour faire du pachinko et des NFT notamment. Donc oui, j'attendais un petit peu cette conférence avec appréhension, mais il y avait aussi un côté un peu fédérateur. Enfin, j'avais l'impression d'être avec, en regardant tous les commentaires dans le chat, d'être avec tous ces gens qui ont l'air de vivre dans une cave depuis 20 ans, et moi vraiment, c'est mon cas aussi, où dès qu'ils ont une miette à se mettre sous la dent concernant Silent Hill, exultent de joie. Et là, c'était ça en fait, c'était une conférence d'une demi-heure avec un nombre d'annonces assez dingue, où les gens semblaient savoir, enfin il suffisait de un frame pour que les gens disent ça y est, c'est ça, c'est le remake du 2 par la Bloober Team. Mais du coup, oui, c'était assez agréable, et surtout bah, de voir que les annonces, hormis quelques trucs parfaitement dispensables comme des planches de skateboard à l'effigie de différents personnages et des peluches excessivement chères, qu'il y avait des vrais jeux derrière, quoi.
Ouais.
Et en soi, moi, en tout cas, je suis ultra excitée par une annonce en particulier, c'est celle de Townfall, en fait, parce que je trouve que le studio No Code, donc, avait fait Stories Untold et Observation, enfin, sont très très forts en horreur psychologique. Le trailer en soi, on voit pas grand-chose, hein, si ce n'est une espèce de télé de poche et une voix off. Mais je sais qu'ils sont...
Tu sais, ils réussissent à créer une ambiance quand même, rien qu'avec ça.
Bah, c'est ça.
c'est ce qu'ils disent dans le trailer, c'est genre, ah, pourquoi est-ce que les gens sont là? Oui, ils sont là pour souffrir, mais toi, je pense que t'as un autre... Et c'est Annapurna qui te dit, d'ailleurs. Toi, c'est pour une autre raison, et je veux pas être à côté quand tu comprendras. Et en 30 secondes de trailer, t'es dans l'ambiance, c'est genre...
Ouais, ça marche vachement bien. Ouais. Et c'était ça tout le génie, je trouve, de Stories Untold. C'était qu'il y avait vraiment... On avait juste, sur le premier segment du jeu, un écran d'ordinateur sur lequel on pouvait jouer à un jeu d'aventure textuelle, une ampoule sur le côté, et rien qu'avec ça, ils arrivaient à créer une ambiance ultra terrifiante, et moi je me dis que ça marche très bien justement avec tout le côté horreur psychologique de Silent Hill. Ça, vraiment, c'est la nouvelle que j'attendais pas du tout. Celle qui était un peu plus attendue, c'était quand même celle du remake du 2. Bon, je suis pas du tout objective, le 2 c'est mon jeu préféré de tous les temps, donc forcément je l'attends avec autant. Ouais, j'adore Silent Hill 2, c'est presque un rituel que de le refaire tous les ans. Mais bon, du coup, à voir si je ferai le remake maintenant, mais je suis autant excitée que je suis un peu, comment dire, j'ai un peu d'appréhension, parce que... Ouais, bah on va dire que la Bluebird Team, je sais qu'ils peuvent faire des bons jeux avec une direction artistique sublime, mais... Pour le coup, j'avais pas énormément aimé leur dernier jeu The Medium, qui certes était ultra beau, mais en termes de gameplay, pas spécialement intéressant. Et tout ce qui faisait le charme de Silent Hill 2, bah justement, enfin, c'était aussi le côté suggéré, mais dû aux contraintes techniques de l'époque. Et là, je sais pas trop ce que ça va donner, en fait, même si bah, le trailer montre quand même un respect du matériel d'origine, un vrai amour du premier jeu. Mais je serais vraiment curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont moderniser tout ça. Et, donc j'attends d'en savoir plus, mais la bonne nouvelle quand même, c'est de savoir qu'il y a Akira Yamaoka, donc le compositeur historique de la Team Silent, qui revient, et surtout Masahiro Ito au creature design, donc qui a notamment créé Pyramid Head. Et ça, je suis très contente en tout cas qu'il fasse appel à des membres historiques de la Team Silent, et que ce soit pas uniquement une nouvelle équipe.
C'est vrai que l'un des trucs qui est marquant vraiment dans Silent Hill, c'est les créatures, les monstres qui sont tous frappants, quoi. C'est des trucs qui immédiatement te marquent et marquent le jeu. Le remake, alors pour tous les jeux, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu grand chose. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais on n'a pas vu par exemple de gameplay pour le 2, c'est vraiment un trailer cinématique. Pour Townfall, comme on l'a dit, on n'a rien vu du tout. Pareil pour le F, le film... Bah, on n'a pas vu d'image, évidemment, il n'a pas commencé à tourner, etc. etc. Donc, c'est des trucs enthousiasmants qui, j'irais presque jusqu'à dire que ce n'est pas des annonces très, très risquées. Mais ce que je retiens surtout de toute cette présentation, c'est que Konami a mis à son niveau, ce n'est pas un énorme producteur, mais ils ont mis les petits plats dans les grands pour la présentation. Ils ont fait une grosse présentation d'une demi-heure avec un petit peu de mise en scène, à la japonaise bien sûr, mais un petit peu quand même. Et puis, ils ont l'air, comme tu le dis Julie, de prendre les choses au sérieux, quoi. Ils ont été prendre... Alors, ils ne font pas de choses en interne, c'est surprenant. Même Project F, enfin Silent Hill F, si je ne me trompe pas, c'est un studio taïwanais.
Taïwanais, ouais. Néobard.
Donc, ils ne font pas les choses en interne, mais par contre, ils sont allés chercher des studios qui correspondent en tout cas aux intentions de design, avec beaucoup de respect pour la licence d'origine. Et puis, ils prennent les choses au sérieux, quoi. Comme tu le disais, ces dernières années, Konami s'était complètement détourné du jeu vidéo. Et puis, ils faisaient des pachinko, des salles de sport et des trucs comme ça. Et là, on a l'impression que, ils disaient d'ailleurs, l'initiation, enfin, le truc qui a initié tout ça, c'était le film. Et là, ils se sont dit, on peut pas juste faire un film, on va refaire des jeux. Et du coup, ils se sont mis à faire 40 jeux différents et des planches de skateboard. Et avec, j'ai l'impression, en tout cas vu d'ici, beaucoup de sérieux et de respect. Donc, est-ce que ça veut dire, au-delà de Silent Hill, que Konami se réintéresse vraiment aux jeux vidéo? C'est tout à fait possible. Mais c'est plus... moi, j'avais beaucoup aimé le 1. Le 2, au risque de me faire des ennemis... J'avais été un petit peu rebuté par le début qui était un peu lent, mais pardon, elle va quitter.
Mon Dieu, je dois écouter ça. Non, je rigole.
Et donc bref, ils ont l'air d'être de prendre les choses à cœur, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Konami est un développeur historique avec des licences fortes, etc. On en parle régulièrement dans l'émission.
Après, quand même, enfin, bien sûr, il y a des motivations commerciales derrière tout ça. Ça fait hyper longtemps que les fans de Silent Hill attendent une suite. Je pense en plus que, vu qu'ils avaient fait un skin, un DLC, ils avaient accepté un DLC sur Dead by Daylight, justement. Et je pense qu'ils avaient pu constater à ce moment-là à quel point les joueurs étaient toujours ultra attachés à la licence. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec le tout début de Silent Hill. Désolé, hein, ça va être un PowerPoint de 46 minutes. Non, je vais freiner.
Mais je voulais donner la parole à Mehdi, mais on ne peut pas.
Vas-y, enchaîne.
mais Silent Hill a été quand même pensé en réponse au succès de Resident Evil. Donc, c'était vraiment donc un objet purement commercial à la base pour concurrencer. Résidente. Et c'est intéressant de se dire que bah là justement qui fait vraiment les maîtres étalons en termes de remake aujourd'hui, bah c'est toujours Capcom avec Resident. Le remake de Resident 2 a eu un gros succès et a entraîné tout un tas de remakes derrière, et je pense que bah, ce remake là, celui du deuxième, va être assez déterminant pour voir justement s'ils réussissent ce pari. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait d'autres remakes qui suivent. Quoi. Je suis vraiment très très curieuse de voir si justement ils vont bien exploiter le filon remake comme l'a fait Capcom avec Resident.
C'est presque, on a presque l'impression que Konami, ça devient un running gag dans l'émission, mais Konami s'est réveillé un jour et ils se sont dit mais attends, mais on aime l'argent. Mais on pourrait faire de l'argent.
C'est et on adore ça.
Mais c'est fou. Mehdi, il y a des choses qui t'ont marqué du coup, toi, dans toutes ces annonces?
Bah déjà, je suis content parce que j'avais entendu parler des annonces, mais j'avais pas regardé dans les détails. Et là, vous venez de m'exposer tout ça, donc merci. Et ensuite, alors moi, je vous avoue que je suis pas spécialement confiant. En fait, je suis ce qu'on a. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que là, vous me donnez l'occasion d'en parler. Donc, je fais partie des die-hard fans de Silent Hill. Et évidemment, le 2, tu disais tout à l'heure, j'ai dit, bon ben voilà, je sais pas comment il t'a marqué, mais moi, il m'a marqué. Donc voilà, ça fait partie des séries vraiment qui m'ont physiquement flingué des frocs. voilà. Non, mais parce qu'il faut utiliser les mots au bout d'un moment. Voilà, moi, j'ai dégommé des sous-vêtements avec Silent Hill. Et donc, les derniers auxquels j'avais joué, c'était les Homecoming. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Silent Hill Homecoming. Oui. Ouais. C'était sorti sur... Et le Shattered Memories, qui était bon, bah, qui avait des choses à dire, mais voilà, quoi. C'était à partir du 4, on va dire, tout ce dont on parlait autour de Silent Hill, ouais, ça m'intéressait plus parce que, voilà, ça correspondait plus, j'ai l'impression qu'il s'était égaré, quoi. Le 4, j'avais surkiffé, hein, au passage, avec ce principe de fantôme qui pouvait venir te traquer jusque dans les points de sauvegarde qui, normalement, c'était établi dans les survival horror que quand t'es dans un point de sauvegarde, on vient pas sur tes côtes. Et celui-là, avec son système de fantôme, là, j'avais trouvé ça surkiffant, et ce principe de first person quand t'es dans ton appart, et puis third person quand tu pars en exploration, c'était vraiment le kiff. J'ai vraiment été marqué par Silent Hill, mais là, bon, il propose des choses vraiment, j'attends de jouer, quoi. On peut me montrer des trailers, on peut me faire des annonces, on peut même me parler de films. J'avais pris du plaisir à regarder le film de Gans.
C'est très bien, ça.
En particulier la scène, enfin, vous savez, la scène où il retire littéralement l'enveloppe, la peau de la personne, comme si c'était un kawaii, et que tu rentrais de travail, c'est la fin de la journée, hop, tu retires ton kawaii. Sauf que là, c'est la peau de la femme. Donc j'avais bien aimé ça. Voilà. Mais au-delà de ça, bon, bah, ok, oui, c'était, bon, il y avait un peu de peur, etc. Donc j'avais arrêté un petit peu, si vous voulez, d'être hypé par les Silent Hill. Et donc là, bah, là, voilà, c'est avec prudence que je vais attendre, que je vais regarder. Je vais, justement, j'écouterai les retours de Julie sur tout ce qui sort. et puis voilà, avant de redonner ma confiance, si vous voulez, parce que ça fait mal, ça fait mal au cœur, effectivement, d'être à fond. Dans une licence, d'être à fond dans un éditeur, dans un développeur, Konami en l'occurrence, pour Silent Hill, mais aussi pour Suikoden et d'autres choses comme ça, enfin, et de voir au fil des années voir la boîte prendre des décisions un petit peu aléatoires, en tout cas qui vont pas dans le sens que j'aurais aimé. Donc voilà, je donne plus mon cœur comme aussi facilement.
Non, mais t'as raison. Ils nous ont tellement déçus de ces dernières années. Moi, le seul truc en tout cas qui fait que j'ai encore envie d'y croire, c'est en fait ils avaient donc complètement dissolu la Team Silent, donc qui a créé les équipes japonaises, donc ont participé à la création des premiers jeux. Après, c'est pas non plus une entité homogène, hein, c'est des personnes qui ont changé au fil des années, pour plutôt embaucher des développeurs occidentaux qui n'avaient pas forcément la même vision de Silent Hill. Enfin, et là, le fait qu'ils fassent appel à des développeurs historiques de la franchise, pour moi, les signaux vont dans le bon sens. Ouais. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi, hein, je vais pas leur donner mon cœur comme ça, là je suis intrigué, mais en même temps je me prépare à me faire broyer le cœur en miettes.
Ouais. Et puis c'est vrai que Yamaoka, enfin, là voilà, ça fait plaisir, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion de croiser, j'étais monté sur scène avec lui à l'occasion des 5 ans de la chaîne No Life, on avait fait un spectacle et tout, et il était venu, il avait fait de la guitare, c'était le kiff, j'adore sa musique qui apportait tellement, au Silent Hill que, ouais, évidemment, je suis curieux, évidemment, j'ai envie de... Mais voilà, oui, effectivement, je vais attendre un peu, je vais regarder.
Un peu de prudence. Oui, vas-y.
Bah, un truc concernant le film, moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, c'est facile de dire que c'est une des rares adaptations de jeux vidéo réussies en film, parce que...
T'as remarqué que c'était prudent quand même médiocre. Sur le...
Oui, c'est ça, tu l'as dit très poliment. C'est le seul à pas... Enfin, en tout cas, le seul de mémoire à pas être une grosse catastrophe, dans le sens où on sent quand même que Gantz, c'est un fan de la licence.
La concurrence en face dans les adaptations de vidéo, effectivement, c'était pas non plus impossible de faire un truc.
Puis en plus, il suffit de l'entendre un peu discuter de la série de la licence pour comprendre que c'est un vrai fan, qu'il n'avait pas vraiment vocation à faire une adaptation au sens strict d'un jeu en particulier, mais plus d'une ambiance, du sentiment de malaise qu'on pouvait avoir en tant que joueur et le transposer à l'écran. Enfin, même si on retrouve quand même les grandes lignes directrices du scénario, et c'était quand même surtout, je trouve, un bel hommage esthétique en termes de mise en scène à Silent Hill. Mais Silent Hill en tant que franchise plutôt que le premier jeu. Ouais. Et vraiment, enfin, là, je suis contente en tout cas qu'il en fasse un deuxième, même si celui-ci apparemment reprendra beaucoup plus fidèlement le deuxième épisode.
On verra ce que ça donne. On a peu de dates dans tout ça. Je crois que qu'on a, c'est même pas, je croyais que pour le...
Si, c'est vrai, on a 2023 pour Ascension. Ouais.
Pour Ascension ? Ah d'accord, moi j'allais dire le remake, je croyais qu'on avait 2023, mais... Je me trompe peut-être. Donc vraiment, ils ont été assez... Oui, c'est ça. Non, on n'a pas de date. Pas de date pour le remake non plus.
Pas de date, ouais. Juste, on sait que ce sera exclu PS... Enfin, non.
Exclu console
PS. Ce sera sur PS5 et PC.
Tout à fait. Bon, bah écoutez, en fonction de votre caractère, soit vous voulez être convaincu, ou en tout cas vous voulez avoir le cœur plein d'espoir et y croire, ou alors vous êtes un petit peu plus, vous gardez votre cœur dans votre poitrine protégée et vous ne voulez pas vous emballer et vous attendrez un petit peu plus d'informations. En tout cas, ce que je note vraiment, c'est qu'ils ont l'air prudemment, mais de s'investir quand même dans le truc. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas juste « Allez, on file ». Ce qu'on aurait pu craindre, c'était juste « Bon, bah, on file un remake à la Bloober Team, ils vont nous faire ça vite, ça va faire de l'argent parce que les gens aiment la série. » Et voilà. Là, non, ils vont beaucoup plus loin. Il est tout à fait possible que ça soit, comme ils l'ont dit à demi-mot, juste il y a un film qui sort, alors comment on peut capitaliser sur le film ? Allez, on va filer à 3 studios, des studios qu'on connaît quand même, mais bon... On verra.
J'avais vraiment peur que ce soit que des skateboards et des figurines, moi, pendant... Enfin, vraiment, ça commence. mais on ne s'est pas trop attardé sur Silent Hill F. Mm. C'est juste, autant Bloober Team et No Code sont des...
Il y a peu de choses à en dire, hein, mais vas-y, ouais, pardon.
C'est ça, mais c'est juste que je suis quand même assez curieuse de la transposition, justement, au Japon, parce que c'est vrai que l'Amérique moderne, ça, c'est quand même un truc qui fait partie de l'ADN de Silent Hill. Mais c'est juste que, pour le coup, là, je ne connais pas trop ce studio en question. Je sais juste qu'ils ont bossé sur les modes multi des résidentes, notamment Reverse et Resistance, et c'était assez nul. Mais à leur défense, je pense que c'est leur cahier des charges qui devait être assez infernal à tenir. Quoi. Ça n'a jamais été
personne ne joue à
Resistance pour le multi. Quoi.
C'est sûr. Et puis là, ce qu'on voit du trailer, c'est vraiment un trailer image de synthèse.
C'est ça.
Ambiance et note d'intention, franchement, qui fonctionnent super bien. Moi, je trouve qu'il y a des choses que font Silent Hill qu'on voit pas vraiment ailleurs. C'est des choses bizarres dans le style de l'horreur, très clairement, qui a bifurqué de Resident Evil, avec des trucs. Ce qu'on voit, je vais pas vous spoiler. S'il y a un truc à voir, c'est celui-là, le trailer de Silent Hill F, parce qu'il y a au niveau imagerie. Des choses qui sont originales, bizarres, et qui donne la chair de poule, quoi. Il y a vraiment des moments où tu dis qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est difficile d'être original dans l'horreur. Faire des jumpscares, faire des monstres, faire des trucs qui crient, c'est facile. Faire des trucs qui sont angoissants, creepy, qu'on n'a jamais vu ailleurs, je trouve que c'est pas évident. Et c'est un truc que Silent Hill fait assez bien, enfin, traditionnellement, assez bien fait. Et là, au moins, il y a ça. Bon, maintenant, on n'a pas vu une image du jeu, donc... Bref, voilà pour cette conférence Silent Hill. Qu'est-ce que ça donnera ? Rendez-vous dans quelques mois, un an, deux ans, pour des réponses plus concrètes. Le deuxième gros sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le scandale Bayonetta 3, qui était un petit peu plus spéculatif jusqu'à un article de Jason Schreier qui a été publié hier, je crois, de Bloomberg, qui clarifie un petit peu la situation. Mais du coup, je vais vous expliquer en deux mots, hein, on ne va pas faire très très long là-dessus non plus, mais ce qui s'est passé, c'est que Bayonetta 3 change d'actrice principale pour la voix de Bayonetta. On avait très peu de détails sur les raisons, jusqu'à la semaine dernière, quand l'actrice principale Elena Taylor a publié sur Twitter une série de vidéos disant que Platinum avait fait une offre insultante pour elle au niveau du montant qu'il lui proposait, qu'elle avait contacté Hideki Kamiya, le directeur, et qu'ils avaient ensuite proposé 4 000 $ pour l'intégralité du doublage de Bayonetta, du personnage de Bayonetta, ce qu'elle avait refusé parce qu'elle trouvait ça insuffisant, largement insuffisant. Et donc, elle a fait une série de vidéos sur Twitter pour dire, pour raconter cette histoire en disant « Bon, bah, moi, je m'en fous du NDA, je dois vous le dire quand même, il faut que la vérité sorte. » Et elle a également appelé au boycott du jeu et elle a mis un petit peu la nouvelle actrice Jennifer Hale, qui est une actrice voice actor de jeux vidéo assez connue, elle a mis un petit peu sous le bus en disant « Bon, ok, très bien, elle peut faire son boulot, mais elle n'a aucun droit de dire qu'elle est la voix de Bayonetta, elle n'a pas le droit de signer des trucs dans des conventions, c'est moi qui ai créé le personnage de Bayonetta, enfin, c'est moi qui lui ai donné vie. » Et donc voilà, je suis outré. Et elle a conclu avec une quatrième vidéo en disant je vous laisse avec les mots du plus grand penseur moral de l'histoire, Jésus-Christ. Et elle a raconté l'histoire de Lazarus et de sa descente aux enfers. Donc bon, un petit peu bizarre.
Est-ce que tu dis ça comme si c'était normal? Oui.
Bah voilà, disons que. Mais le truc, c'est que ce que ça a provoqué, c'est une levée de bouclier contre Platinum, assez unanime, j'ai eu l'impression quand même, des réactions assez fortes des fans qui étaient outrés de ce qui s'est passé, du traitement qu'ils ont réservé à Taylor. Et donc, une campagne presque. Enfin, pas de harcèlement, mais enfin, si, elle a quand même reçu beaucoup de harcèlement de Jennifer Hale. Platinum s'est fait plus que remonter les bretelles. Et on a eu donc, c'était l'ambiance jusqu'à il y a deux jours, et le reporting de Jason Schreier qui semble clarifier un petit peu la situation, ou en tout cas qui apporte des informations supplémentaires et contradictoires, réfutées ensuite par Elena Taylor, qui dit que Platinum a proposé à Taylor le rôle avec non pas 4 000 $, mais 3 à 4 000 par session, et il y avait au moins 5 sessions, donc au moins 15 000 $, qu'elle a refusé, qu'elle voulait au moins un chèque à 6 chiffres, donc au moins 100 000, et des residuals, des royalties pour le jeu, s'il fonctionnait très bien. Et qu'ils ont là refusé, et qu'ils ont, après ça, après avoir refusé, ils ont été chercher, relancé un casting et ils ont été chercher quelqu'un d'autre. Et en plus, ils ont quand même proposé une session en caméo à Elena Taylor pour donc 3 000, 4 000 $, ce que c'était, en une session, ce qu'elle a refusé. Et ensuite, elle a fait sa vidéo. Il ajoute aussi des informations qui étaient disponibles même avant ça, c'est-à-dire que l'autre partie de la discussion qui a eu lieu, c'est que c'est le traitement et le travail des acteurs, des voice actors du jeu vidéo, qui sont, selon les premières réactions et un petit peu ce qu'indique Elena Taylor, très mal payés, exploités, etc. un des éléments qui était disponible, notamment dans l'article Polygon sur le sujet, juste après les vidéos de Taylor, c'est que la guilde, donc le syndicat des travailleurs de ce domaine de télévision, jeux vidéo, radio, tout ça, établit des tarifs qui sont établis, qui sont de 1 000 $ par session d'enregistrement, par journée d'enregistrement de 4 heures, et que ça, c'est le tarif minimum. Après, ça peut aller plus haut, mais c'est le tarif minimum. Et il y a d'autres acteurs qui ont dit, alors moi, on m'avait proposé ceci, cela. Certains ont dit, oui, effectivement, il y a des tarifs de ce type-là. On m'avait proposé 4 000 pour l'intégralité du jeu. Mais un élément qu'on n'avait pas, c'était combien de jours ça représente, ça. Et il s'avère que Elena Taylor, pour doubler Bayonetta dans le 1 et le 2, elle avait fait 4 sessions de 4 heures. Pour le 1 et 4 sessions de 4 heures pour le 2. Donc, c'est pas des journées de travail interminables non plus. C'était 4 sessions, même pour un jeu aussi, entre guillemets, long, ou un doublage, un personnage principal pour un jeu comme ça. Bref, ça, c'était la base du truc. Je suis curieux d'avoir votre réaction. Moi, je me suis un petit peu fighté dans le Discord avec les patriotes, enfin les patriotes et les auditeurs dans le Discord, parce que j'avais un avis qui n'était pas du tout aligné sur, pour une raison qui est un petit peu presque annexe. Mais je suis curieux de savoir votre réaction sur cette histoire, si vous en avez une, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis là-dessus. Mais je redonne la parole à Julie, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de tout ce scandale?
Le truc, c'est qu'en plus, là, on est encore à un stade où c'est la parole de Taylor contre celle de Camilla, parce que si je ne m'abuse, elle décrit dans l'article de Jason Schreier que pour elle, c'est un mensonge, le fait qu'il lui ait proposé 15 000 $.
Ce qu'elle a dit, c'est un tissu de mensonge, et maintenant, je voudrais oublier cette histoire et revenir au théâtre.
Bah, c'est ça, donc du coup, c'est difficile. Bah, bien sûr, hein, si la vraie proposition c'était 4 000 $ pour l'ensemble du jeu, c'est quand même du foutage de gueule, dans le sens où, quand même, la plupart des comédiens de doublage avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ont tendance à se contentent rarement de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est pas ça qui paye leurs factures, dans le sens où y a pas seulement les sessions studio, hein, y a aussi toute la préparation au rôle, etc. Mais ouais, moi je serais vraiment curieuse de savoir quelle était la réelle somme proposé par le studio, parce que là pour l'instant en fait on ne sait pas, enfin on sait juste que Camilla avance et ce que Taylor avance d'une autre part, mais pour l'instant oui c'est difficile.
Moi j'ai tendance à faire confiance à Schreier,
en tout cas, son énervement.
S'il écrit quelque chose, généralement il est sourcé et bien sourcé, Schreier, tu vois, c'est un type qui
ce que je veux dire c'est c'est ça, oui, les personnes, je comprends tout à fait, hein, qu'elles n'aient pas voulu être identifiées etc. Donc, il a aussi écrit que Taylor décrivait que c'était un tissu de mensonge. Quoi. Donc, pour l'instant, enfin, ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Moi, je trouve ça intéressant que ça mette justement en lumière le travail de comédien de doublage, parce que finalement, on en parle assez peu. Enfin, c'est le genre de choses dont le genre de métier dont on parle quand ils réussissent vraiment leur taf. mais honnêtement, on sait peu de choses, je trouve, sur leurs conditions de travail. Et je trouve ça, s'il faut retenir quelque chose de ce scandale de positif, c'est plutôt qu'on parle
du travail,
enfin de ça. Après, en soi, sur l'affaire en soi, moi, j'ai pas grand-chose à dire, dans le sens où je comprends Taylor si effectivement la somme est aussi ridicule qu'elle le prétend. Voilà quoi.
Ouais. Mehdi, t'as des commentaires dessus ou...
Moi, si y a un truc que je dois retenir de ça, c'est que on est quand même. Déjà, merci encore d'avoir résumé et puis à vous deux d'avoir commenté cette affaire, parce que j'avais suivi ça de loin, mais pas trop en détail. Et donc, grâce à vous, maintenant, je suis un petit peu plus au fait. Mais je remarque. Et je m'inclus dedans, évidemment, qu'on est prompt à réagir et parfois de manière un petit peu, de manière un petit peu
sanguine,
intense, ouais, tout à fait, à des choses qui nous indignent ou qu'on trouve pas normales, parce qu'effectivement, 4000 balles pour une production comme ça, d'autant que il me semble que on rappelait les chiffres de vente ou les sous que s'étaient fait Platinum avec la franchise, et que 4000 balles pour doubler ça avec cette voix justement qui était qui parlait en tout cas aux joueuses et aux joueurs, c'est vrai qu'on pouvait trouver ça abusé, quoi. Mais avec les nouvelles, les révélations de comment il s'appelle, Jason Schreier, je constate qu'on est prompt à réagir, à s'indigner sur les réseaux. Et moi le premier. Enfin bon, en l'occurrence là, j'avais pas
devant Twitter à ce moment, donc
non.
Sinon tu serais parti au quart de tour.
Voilà, tout à fait. Mais dans ma tête, oui, j'avais déjà tous mes discours un peu de maxi gauche. Ouais, c'est pas normal.
C'est ça.
Etc. Avec tous les profits qu'ils font, merde. voilà. Et que en fait, bon ben, parfois c'est bien d'attendre un petit peu et puis de se renseigner à droite à gauche, même si en toute franchise. Je pense, je sais pas si Madame Taylor, elle est dans le, elle dit la vérité. Effectivement, là, on est sur du parole contre parole, etc. Ouais. Moi, je pense que et puis c'est pas très original comme constat, mais comme réflexion, mais je pense que ça a essayé de gratter des deux côtés. Moi, je pense. Ouais. Je pense que Madame Taylor, elle a essayé de gratter des sous, et puis Platinum, ils se sont dit, ouais, non, mais attends, parce que quand même, les sous, c'est important. Donc,
on est de l'argent, voilà. C'est ça, c'est ça qu'il faut pour moi comme jingle. Tu te réveilles, ouais, c'est ça, tu te réveilles dans le. Mais attends, mais j'aime l'argent. Écoute, moi j'ai un petit peu comme je disais un avis. Vous le sentez arriver. Il y a quelqu'un qui là tout à coup va sortir du bois et c'est l'avocat du diable. Mais pas complètement parce que je le pense pas mal. Souvent. Disons que régulièrement je suis quand même, tu disais les ultra-gauches, moi je suis un petit peu woke sur les questions sociales, sexisme, harcèlement, tout ça, genre j'aime pas quand les gens se font maltraiter, tu vois, mais quand même j'ai aussi des tendances un petit peu de grands capitalistes affreux, et là je vais les faire ressortir un peu. Ça m'a beaucoup frustré cette histoire, parce que on est parti du principe que, en fait, bon, il y a deux problèmes dans cette histoire qui m'ont vraiment touché, et peut-être que je l'ai. D'ailleurs, on passe peut-être trop de temps dans cette émission à en parler, parce que moi, ça m'a frustré. D'une part, il y a la question du travail des doubleurs du jeu vidéo, et au cœur de tout ça, la question de la rémunération, en fait, et pas juste la question de la rémunération. Vous vous souvenez qu'il y a eu une grève en 2016 des travailleurs, des acteurs de voix du jeu vidéo qui voulaient avoir une revalorisation de leur rémunération aux États-Unis, et ça s'est propagé à travers le monde. Et ils sont tombés sur un accord qui est l'accord minimum de 1 000 $ par session de 4 heures par jour. Et c'est les tarifs syndicaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas toucher plus, qu'ils ne devraient pas avoir plus, mais enfin, c'est un truc qu'ils ont trouvé comme accord. Et nous, franchement, je pense qu'on est moins... je veux dire, on dirait, il faut combien ? Ah non, 1 000, c'est trop peu, donc quoi ? Il faut 2 000 pour tout le monde, ceux qui font des enregistrements de... Bon, on ne sait pas. Ils ont un tarif qui est après la grève sur lequel ils sont tombés d'accord. L'autre point, c'était la question des residuals et des points, des points de pourcentage, qui est un truc, en fait... qui est exigé par les acteurs du jeu vidéo parce qu'ils sont des acteurs et que dans le cinéma, ils touchent ça. Et dans le cinéma, la raison pour laquelle ils touchent ça, c'est que quand tu mets le nom d'un gros acteur sur un film, ils n'ont pas tous des points, ils n'ont pas tous des pourcentages. C'est ceux qui sont vraiment des gros. Pourquoi ? Parce que leur nom et leur visage attirent les spectateurs. C'est qu'ils ont une force de négociation plus grande, parce que si tu mets le nom de Chris Pratt sur un film, s'il monte sa gueule, eh ben, y a des gens qui vont venir le voir parce que c'est Chris Pratt. Et je suis sûr que Elena Taylor a fait un très bon boulot sur Bayonetta, mais enfin, soyons honnêtes, personne ne va acheter Bayonetta parce qu'il y a le nom de Elena Taylor dessus. D'ailleurs, je pense que 99% des gens qui se sont insurgés sur les réseaux sociaux ne savaient même pas qui doublait Bayonetta. Donc, et dans, d'une manière générale, dans le jeu vidéo, il n'y a pas une... Les gens ne vont pas acheter un jeu parce qu'il y a tel voice actor. On l'aime bien, mais généralement, on aime bien telle personne, on pense qu'il incarne bien le rôle. Souvent, c'est parce qu'il était là avant les autres et c'est lui qui était là et elle a bien fait le truc. Mais personne va aller... Ou, c'est très, 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 très rare les cas où tu vas dire « Ah bah, je vais acheter ce jeu parce que c'est tel acteur. » Peut-être que parfois, je sais pas si on a... mais Nolan North et ses potes, tu dis, ah bah oui, lui je le connais, il y en a 4-5 qu'on connaît, mais je trouve que l'association, si vous voulez, si on commence à dire les acteurs de jeux vidéo, les voice acteurs de jeux vidéo, il faut leur donner des points, pour moi, dans le cinéma, les acteurs ont une importance pour le film qui est disproportionnée. Dans le jeu vidéo, ils ne sont pas plus importants qu'un compositeur ou qu'un designer ou qu'un art director ou... Enfin, On n'est pas dans le même type de proportion d'importance. Oui, Julie, je te laisse.
Bah, je suis...
Arrête, Siri.
Je suis d'accord. Ah, c'est Siri qui parlait. Ouais, je me fais contredire par un ordinateur. Je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où, effectivement, je pense pas que ce soit le simple nom d'un comédien de doublage qui va pousser des gens à acheter un jeu. Ça fait partie quand même, ça peut faire partie des arguments de vente. Enfin, après, pour des cas ultra emblématiques, comme par exemple The Stanley Parable qui est doublé par Kevin Brighting, où la voix du narrateur est tellement importante que ça paraissait difficilement envisageable d'avoir une suite sans lui. Et effectivement, ils l'ont rappelé pour la suite.
Mais là, regarde, il y a quand même une starification
progressive. Il y a quand même une starification progressive de ces comédiens. Tu vois le cas de Troy Baker, par exemple, qui est littéralement dans tous les jeux, etc. Ouais. C'est presque devenu un argument de vente en soi. Alors, je dirais pas qu'Elena Taylor a le même. Qu'elle est autant connue que lui. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça quand même intéressant.
Tu prends l'exemple de Troy Baker, j'ai pris celui de Nolan North. Il y a genre 5 personnes dans l'industrie. Et encore, Troy Baker, tu le prends dans The Last of Us, ok. Mais dans n'importe quel autre jeu, si tu mets Troy Baker, on fait oh, c'est Troy Baker. Mais t'aurais mis un autre acteur. Je veux dire. Le personnage peut être incarné par tout un tas d'acteurs parce que c'est une partie vraiment congrue de ce qui fait le personnage. Et en plus, quand on parle de Troy Baker, c'est The Last of Us qui est hyper cinématique. La plupart des jeux, c'est beaucoup moins important la place
la place de la voix,
De la voix dans la construction du personnage.
Je suis d'accord, mais après, je trouve que ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que on voit aussi parfois des collaborateurs de longue date. Par exemple, j'ai oublié son nom, Stéphanie Houston, par exemple, qui travaillait notamment avec Kojima sur Metal Gear, qui avait été un peu abandonnée comme une vieille chaussette au moment où il avait été question de faire Death Stranding. Elle était pour participer au jeu avant de se faire ghoster totalement. Et c'était arrivé à d'autres comédiens. C'est intéressant aussi pour eux de se mettre en avant et d'avoir des revendications. C'est important de vouloir niveler un peu les modes de rémunération pour tout le monde. Enfin, ça, moi, en tout cas, je trouve que c'est à leur honneur de le faire.
Et ça, c'est l'argument, soyons honnêtes, qui est un petit peu par principe de dire il faut qu'on soit du côté des travailleurs parce qu'ils ont des revendications sur leurs conditions de travail. Ce que je comprends sur le principe. Mais là, en l'occurrence, on parle de voice actors qui voudraient avoir des traitements différents et beaucoup plus favorables que tous les autres travailleurs de cette industrie. Par exemple, l'idée de dire on veut un pourcentage, moi je suis désolé sur un voice actor. Tu me dis par exemple, un type qui vend un jeu, Miyazaki, il met son nom sur un jeu, je parle de From, il met son nom sur un jeu, il va décupler le chiffre de vente. Kojima, il met son nom sur un jeu, il va décupler les chiffres de vente. Elena Taylor, si c'est pas elle qui double Bayonetta, tout le monde s'en fout, je suis désolé de le dire comme ça, on va voir le 3 qui sort dans une semaine, je pense que Jennifer Hale va faire un très bon boulot, et d'ailleurs je ne doute pas qu'elle a été mieux payée que ce que proposait, ce dont parlait Elena Taylor, parce que c'est une actrice de renom, et qu'elle fait bien son boulot, etc. Mais bref, l'idée que les voice actors sont équivalents d'un acteur et que donc ils devraient être payés de manière équivalente avec des histoires de pourcentage, parce que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait 100 000 dollars pour 4 jours de travail, plus un pourcentage des ventes. Moi, je suis désolé pour le poids que ça représente dans l'attraction du titre. C'est pas comme quand on fait un acteur connu dans un film. Il n'y a pas de... Il y a un autre aspect dont je voulais parler, mais... Allez-y.
Vas-y, si je peux juste me permettre... Vas-y. Non, parce que je serais sur ton Discord, Patrick, qu'on aurait eu les grosses discussions.
J'en doute pas. J'étais un peu, quand je dis l'avocat du diable, j'étais un petit peu le
mais oui, mais j'adore.
Le solitaire, tu vois.
C'est parfait. Mais je crois qu'il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Déjà, le fait que les personnes, donc les voice actors, qui, très concrètement, donnent une identité... à des personnages, je trouve ça pas déconnant que il et elle se disent j'ai participé ou je participe à fond au succès du truc, je vois pas pourquoi j'aurais pas un petit billet
pas plus qu'un designer,
ce serait aussi que les designers soient rémunérés
donc il faut que tout le monde ait un pourcentage
Oui Patrick, l'idée c'est de tirer tout le monde vers le haut plutôt que de dire pourquoi toi t'aurais ça et pas moi.
Vous savez qu'on a un pourcentage des profits, en tout cas en France on a tous un pourcentage des profits de la boîte. Quand elle fait tant de profits, on a un pourcentage des profits.
Et c'est très bien. Ouais. Et c'est très bien. Il y a par exemple, je pense à la voix off des jeux. Alors, Julie, tu vas peut-être me rappeler le studio, mais tu sais, Transistor, Hades.
Supermassive.
Exactement, merci Patrick. Supermassive, le narrateur dont j'ai aussi oublié.
Non, Supergiant.
Merde, j'y étais presque. Heureusement que j'ai Julie.
Eh ben, lui. Très clairement, il fait partie de l'équipe. T'as envie d'entendre sa voix off. T'as envie qu'il te raconte ce que t'es en train de faire ou ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Donc t'as comme
tu
ça,
crois
voilà.
Que personne d'autre peut faire une voix.
Le
comme
jeu.
Ça
alors, plein de gens peuvent le faire, mais il se trouve que c'est cette personne qui a fait ça. Et maintenant, on peut pas nier que elle apporte quelque chose, sa personnalité, quelque chose à des personnages. Le second truc que je voudrais évoquer, c'est tout à l'heure tu parlais de Chris Pratt.
Ouais.
Et j'ai envie de dire, regardons ce style de Bad Buzz un peu qu'on a eu quand ils ont mis le trailer de Mario, le film
c'est
avec Chris Pratt.
C'est vraiment un autre problème.
C'est un autre problème, mais on est sur une personne bankable qui prête sa voix à un personnage, et derrière beaucoup de gens, après j'ai pas les stats et tout, mais beaucoup de gens qui disaient non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Et il est possible que ça porte un petit peu préjudice au film. Regardez comment ça a été accueilli le trailer français. Ah ben Mario, on veut qu'il parle comme ça et puis qu'il.
Oui, mais ça.
Ben voilà, franchement, c'est comme ça. Plein de gens peuvent le faire, mais c'est simplement pour appuyer sur le fait que non, attention, la voix, elle est importante en fait.
Donc la elle voix est plus importante que l'animation de la personne qui fait de l'animation.
Pas 3D. Spécialement parce qu'un jeu vidéo, c'est un ensemble,
ouais.
C'est
une œuvre collective. Ouais.
Voilà, mais disons que acknowledger, prendre en compte le fait que les personnes qui travaillent et notamment qui animent, qui trouvent les game mechanics ou qui doublent et qui donnent une personnalité, une épaisseur de la 3D à des personnages, évidemment qu'elles participent à tout ça et que pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'elles pourraient pas se prendre un petit billet, voilà. Après,
voilà. Il y a deux choses que je voudrais dire sur la question de Mario. C'est vraiment un coup de, je sais pas, de Trafalgar, de parce que c'est une question vraiment différente. C'est un ou à vrai dire peut-être même que c'est lié. C'est un affect qu'ont des joueurs pour un truc qui est impossible à traduire en film. Parce que ce qu'on connaît de Mario, c'est trois voix débiles qui font It's a me, Mario, et wouhou.
Exactement.
Tu vois. Et le truc, c'est que tu peux pas faire un film avec ça. Ou en tout cas, c'est pas le film qu'ils ont choisi de faire. Donc, ce mini-scandale qui en était même pas vraiment, les gens disent faudrait qu'on ait wouhou. Et ça n'a pas de sens. Enfin, soyons sérieux deux secondes. Là,
c'est un film qui s'adresse. Enfin, je veux dire, ils font un film Mario. C'est pas un film qui s'adresse à des gens qui connaissent pas Mario et puis qu'on va essayer de faire rentrer dans le
film. Mais ce que je veux dire,
c'est un film qui s'adresse directement aux joueuses et aux joueurs.
Bien
donc,
sûr.
Mais ce que je veux dire, c'est que leur donner des choses pour leur rappeler.
Oui,
après,
mais t'es pas obligé de faire exactement du fan service sur ce truc. Mais
t'es pas obligé.
Non, mais le plus important là-dedans, c'est que cette voix-là, quand c'est un effet qui dure 3 secondes dans un jeu où il y a plein d'actions, ça passe. Mais tu peux pas faire tout un film avec « Bonjour, je suis Mario, comment ça va les amis ?» Au bout d'une demi-heure, ça te ferait peut-être rire, mais je crois que c'est pas très sérieux pour un film. Mais à la limite, même, ça touche à quelque chose de plus profond. C'est pas l'intention de l'équipe de prod, de l'équipe de réal, du réalisateur, il veut pas faire ça. Et c'est pas à nous de choisir ce qu'ils veulent faire ou pas.
Et ensuite, d'accord.
Au-delà de ça... Pour ce dont on parle, il y a une sorte d'entitlement des joueurs qui disent « Oh ben non, moi j'ai cet acteur, je veux cet acteur ». Mais c'est pas toi qui fais le jeu, c'est le réalisateur du jeu, la boîte qui produit le jeu, qui va décider quel acteur on veut, combien on veut mettre d'argent là-dedans, et quel... D'ailleurs, je vais le dire en deux secondes, parce que c'est plus aussi important maintenant qu'il y a eu l'article de Bloomberg, mais Elena Taylor, moi je suis allé regarder, je me suis dit « Ah bah ça se trouve, elle est hyper connue, elle est hyper... Elle joue hyper bien, c'est une grande actrice, ou j'en sais rien, elle peut exiger beaucoup d'argent. » La nana, elle a rien fait depuis 2014. Ses deux derniers titres et ses deux derniers crédits dans le jeu vidéo, c'était Bayonetta et Bayonetta 2 en 2014. Tu regardes son compte Twitter, il y a rien du tout. Il y a un an, en juin, elle joue Marie Magdalene dans une production super chrétienne qui fait des reproductions de la Bible pour des familles et des communautés. À part ça, il y a un truc genre il y a un an, un petit théâtre. Dans son CV sur son site, il y a des productions dont la moitié au théâtre, c'est l'école dans laquelle elle était, parce qu'elle se présente genre « Moi, j'ai travaillé mon craft pendant 7 ans dans telle école incroyable et avec telle... » Alors tu dis « Oula, ok, peut-être que... » Mais ce que je veux dire par là, c'est pas juste pour la descendre. Elle, on s'en fout, moi je m'en fous d'Elena Taylor. Mais l'histoire me paraissait bizarre. La manière dont elle l'a présentée, ça me paraissait bizarre. La manière dont elle a l'air d'être une... Enfin, je suis désolé, mais c'est pas une actrice, la nana. Elle parle jamais de son travail. Elle parle... Et donc, que... c'est quelque chose qui m'a... Je vais te laisser parler dans une seconde. Dans ce cas précis... Je trouve que les demandes et le scandale, parce qu'elle a dit, tu vois, elle a pointé du doigt tout le monde, elle a dit « Ah, on me maltraite !» et ça fait un petit peu diva, alors qu'elle se disait, ce qui s'est passé, je crois, c'est qu'elle s'est dit « Bon, bah, je vais toucher plein d'argent. » Elle a dit « Ah, Platinum a fait 450 millions de dollars sur Bayonetta, alors qu'il s'est vendu pas super bien, ces jeux, c'est un petit peu des jeux de niche. » Et elle a pensé qu'elle allait toucher le gros lot avec, ou en tout cas, elle voulait avoir plus d'argent, elle l'a pas eu, elle était dégoûtée, quoi. Elle était deg, et je peux comprendre qu'elle soit deg, mais ça veut pas dire qu'elle a raison. Donc, voilà, moi, c'était ma conclusion là-dessus.
Alors, je pense pas...
Mais c'est quoi cette émission de droite, là, me dit-on sur Twitch? Ça arrive de temps en temps, j'ai parfois des opinions.
Moi, je voulais juste dire...
Et je vous laisse conclure, parce qu'on va avancer.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, pour moi, c'est une affaire aussi qui va au-delà de la simple personne d'Elena Taylor, c'est que effectivement, comme tu le dis, on met un nom comme celui de Kojima ou Miyazaki sur un jeu et ça peut permettre d'en vendre des palettes. Oui, c'est sûr, mais après, on ne devrait pas rémunérer les développeurs et personnes qui participent donc à l'élaboration d'un jeu vidéo, parce que Miyazaki et Kojima, sans leurs équipes, ils sont rien. Il faut des gens pour servir leur vision. Et il faut que ces personnes soient justement rémunérées.
Les voice actors, ils disent, on veut de l'argent, on veut beaucoup d'argent, on veut plus d'argent, on veut des pourcentages, si le jeu se vend bien. C'est eux qui présentent les choses comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le cinéma. Je ne le sors pas de nulle part, moi, cette histoire. Tu vois, je l'ai pas inventé,
mais je veux dire, ça me paraît logique et légitime, en tout cas, que, et je parle pas d'Elena Taylor en particulier, mais de mettre en lumière le fait qu'un jeu vidéo n'est pas l'œuvre d'une seule personne, et que ces personnes devraient donc, à juste titre, être rémunérées et entendues sur leur revendication.
Je pense qu'on peut tous les trois se mettre d'accord sur le fait que là, cette histoire en particulier, bon, on sait pas, c'est peut-être trop demandé, c'est peut-être pas honnête d'un côté ou de l'autre, mais que de manière générale, on m'a toujours répété, et je crois que c'est quelque chose de plutôt vrai, que le sound design de manière générale sur un produit culturel comme un jeu vidéo, une œuvre culturelle comme celle d'un jeu vidéo, ben ça participe vraiment à 50% de l'expérience. Ce que tu entends en termes de son et de voix, etc., ça participe grandement à l'expérience. À partir de là,
ça laisse pas beaucoup pour tout le reste, hein, si tu prends 50% avec le son. Mais
ah ben ouais, mais pourtant c'est un vrai truc, tu sais, c'est issu de.
Non mais c'est important, évidemment.
Je te parle de discussions que j'ai eues avec des ingé-sons.
Ah bah évidemment, si tu demandes pour des ingé-sons.
Évidemment, il faut bien qu'ils justifient leur taf. Mais on peut se mettre d'accord pour dire que si le son c'est très important, l'acting, le travail de comédienne ou de comédien que tu peux avoir derrière un personnage doublé, c'est très important. Moi, ça fait partie des choses qui peuvent me faire rentrer dans un jeu comme et peuvent m'en faire complètement sortir. Donc ça a son importance, et que de manière générale, quand on est sur des choses qui fonctionnent bien, je dis pas là encore une fois pour le cas particulier de Bayonetta, voilà, c'est peut-être, ça s'applique pas forcément, mais de manière générale, quand ça va bien, quand il y a quelque chose qui va bien et qui est le fruit d'une équipe, récompenser toute l'équipe à hauteur de ce qu'on estime bien, je trouve que c'est pas déconnant, quoi. C'est bien, c'est sain, c'est mieux, ça évite ce genre de petit bad buzz.
D'accord. Je suis d'accord sur le principe. Je dirais simplement que dans le travail des personnes indépendantes et le travail qu'on... Bon, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que je pensais. Je vous remercie.
Oh, le loup solitaire jusqu'au bout.
Non, mais, non, j'aurais plein de choses à dire, mais on commence à s'éloigner du sujet.
Mais donc, c'est bien, mais ça reste intéressant. C'est très bien.
Écoute, j'espère en tout cas que les auditeurs y verront un petit peu plus clair. C'est pas un sujet qui est hyper genre quel jeu va sortir, quelle franchise a un nouvel épisode, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'en discuter et puis ça permet d'avoir un point sur cette question aussi des acteurs de jeux vidéo. Donc voilà pour le scandale Bayonetta 3. Maintenant, vous savez de quoi il en retournait. Une autre chose dont il faut savoir de quoi il en retourne, c'est Patreon. Patreon.com/rdvjeux. Si vous voulez que les voix que vous écoutez, qui sont tellement importantes, soient rémunérées, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux pour que moi, je sois rémunéré et que je puisse faire tourner la société et la maison, la vie ici. Si vous appréciez nos discussions, si vous trouvez que c'est sympathique, qu'on passe de bons moments, eh bien, vous pouvez donc sur patreon.com/rdvjeux soutenir l'émission et avoir des contenus bonus, des trucs sympathiques en plus, des émissions sans pub, des émissions avec les time codes, etc., etc. Et donc, il suffit d'aller sur patreon.com/rdvjeux. Si vous soutenez la gauche woke et la droite macroniste, non, capitaliste, macroniste, est-ce que c'est la droite vraiment, peut-être
c'est le...
Oh.
Oh oui, c'est la droite.
Je fais de la provoque, mais non, mais c'est le centre, c'est le centrisme. Voilà.
C'est des bagarres,
ni droite, ni gauche, ni droite, ni gauche. En tout cas, tout le monde se retrouve sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. Allez-y y faire un tour, il y a des trucs plutôt sympathiques là-bas.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On continue avec les jeux auxquels on a joué en ce moment. Et Mehdi, j'ai l'impression que tu as un titre qui... Enfin, je sais que le titre du jeu dont tu vas nous parler me parle, mais vraiment à moi, au fond du cœur, c'est Hell is Others. Mais complètement, exactement. L'enfer, c'est les autres. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?
Alors, mais figure-toi, là, Patrick, je vais te parler d'un jeu. À la toute base, je comptais te parler de Darkest Dungeon 2, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, je t'avais parlé de Darkest Dungeon 2, et là, ils ont fait une mise à jour et ils m'ont reset toute ma progression, mais ça reste mortel. Mais en fait, non, je vais pas faire ça.
Okay.
Là, je vais te parler d'un jeu auquel j'ai même pas encore joué, en fait. Enfin, si, j'ai joué à la démo. Ces dernières semaines, je sais pas si vous avez vu, puis bon, ça fait un bail que c'est comme ça, mais il y avait quand même pas mal de démos sur Steam, de petits jeux indés. Mmh. On a pu se faire plaisir de manière générale, et moi en particulier sur Hell is Others. Donc laisse-moi retrouver le nom du studio, développé par Strelka Games. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, j'ai joué qu'à la démo, hein, mais il sort tout à l'heure là, Patrick. Il sort tout à l'heure et je vais être dessus.
Donne envie aux gens, vas-y.
Alors, comment je vais décrire ça? Je dirais Twin Stick, c'est un Battle Royale Twin Stick Top Down Shooter Roguelite. Donc, waouh, là, je suis sorti plein de...
Ouais, t'as mis tous les buzzwords, là. J'allais te demander si c'était un Roguelite, mais je m'attendais pas au Battle Royale. C'est multi
ouais.
Et tout.
Alors tout à fait, il y a une dimension multijoueur, mais que je trouve subtile et intéressante presque
t'as
comme...
Ah, pixel art, c'est du pixel art aussi.
Pixel art, évidemment, oui, évidemment. Pardon. une dimension un peu multijoueur qui se rapproche dans son côté un peu cryptique des Souls. C'est-à-dire que c'est pas, tu te fais pas.
En plus, t'as réussi à caser les sauts.
Mais non, mais je t'explique. Non, mais parce que là, t'es pas genre, ok, t'arrives dans un lobby, tu vas faire une partie avec des potes, c'est bon. On a créé la team. Vas-y, c'est parti, Battle Royale comme dans Apex ou quoi que ce soit. Non, là, c'est tu sais pas contre qui tu vas tomber. Tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber sur quelqu'un, parfois même tu vas tomber sur personne. Voilà, c'est un petit peu mystérieux. Et le jeu, de manière générale, alors comment te pitcher ça? T'es un mec, un style d'inspecteur dans une ville qui s'appelle Central City, qui est manifestement dangereuse. limite nocive, tu peux pas y rester plus de 10 minutes, une connerie comme ça. Et tu vis dans un hôtel. Hein, les hôtels, comme à l'époque, au milieu du XXe siècle, les trucs avec les grooms, les ascenseurs, un peu vieillots, mais classe palace.
Genre années 30, ouais.
Voilà, ouais. Voilà. Un truc de ce style. Et en fait, tu te réveilles un matin et tu trouves un bonsaï. Une plante dans un pot de... Eh, je sais, c'est chelou.
Ah, devant, il est super stupide. Pour l'instant, je suis à fond.
Devant chez toi, tu trouves ça et tu dis merde, qui c'est qui m'a rapporté un bonsaï? Et l'aventure commence comme ça.
Je pensais que le jeu allait aller.
Le truc part comme ça, et en fait, en termes de gameplay, t'es amené à descendre dans la ville. Quand t'es dans la ville, c'est là où tu peux assister à du joueur contre joueur. Et en fait, tu dois aller remplir des quêtes, remplir un certain nombre d'objectifs, scavenger, prendre du matos, voilà, pour essayer de marquer des points, être plus solvable. C'est comme ça, ça fait partie. C'est une des currency, un des objectifs du jeu, c'est être plus solvable.
Rester, attends, d'accord, voilà. Ça me parle, exactement. Ça, tu vois, c'est un petit peu capitaliste, quoi. Très bien.
Et pour être solvable, eh ben, tu vas tuer des créatures. Le twist.
Donc on va au fond de la droite, oui. Là, vraiment.
Là, pour le coup, ouais. Gens, ouais. Là, on est presque sur une dystopie.
Mais c'est des monstres quand même qu'on doit tuer. Là.
Les monstres que tu dois tuer, en fait, et c'est un twist qui arrive dès le début, que tu comprends dès la première fois où tu prends l'ascenseur pour descendre dans Central City, les monstres que tu tues, c'est les autres.
Moi, j'espérais des bonsaïs anthropomorphes.
Mais... non! Mais voilà, et le côté roguelite vient dans ce délire méta, les choses que tu débloques, en fait, au fur et à mesure que tu fais tes runs, c'est-à-dire que tu descends dans Central City et que tu tues et que tu accumules des richesses et des points, etc., tu vas pouvoir customiser ton appartement et qui va te donner des bonus, plus 5 en temps de rechargement, plus 10% en vie, etc. Et tout ça va dépendre, en fait, de l'agencement de ton petit appart. Au début, bien merdique, et à terme, j'espère, un petit peu plus classe. D'accord. Et j'adore, en fait, j'adore ce mélange. J'adore ce principe un peu de battle royale, dans le sens où tu descends dans la ville et t'es à poil, en fait tu dois t'équiper vite en cherchant, en scavengeant à droite à gauche, en prenant les meilleures choses avant les autres personnes. Et puis le côté roguelite, c'est-à-dire même si tu meurs, c'est pas grave, t'as gagné des points, tu vas pouvoir faire mieux au prochain run. Et aussi enfin la DA, voilà, parce que moi je suis un mec des pixels, évidemment, et je suis un mec un peu du bresson, j'aime bien tout ce qui est bresson, ouais. J'aime bien tout ce qui est dark.
Voilà,
c'est complètement ça. Donc voilà, et le jeu sort tout à l'heure, je vais me mettre dessus.
On l'a pas dit très spécifiquement, mais oui, c'est du pixel art vu de dessus, donc twin stick shooter, comme tu disais, et c'est quand même très très beau. Du coup, tu disais les ennemis, c'est des d'autres joueurs, mais nous on a notre look de personne, genre le mec avec la clope et la cravate, ouais. L'inspecteur des années, bon, peut-être pas 30, mais les autres c'est des gros monstres noirs avec des yeux bleus là. C'est vraiment les autres joueurs, tous les autres monstres, c'est d'autres joueurs.
Non, d'accord. Il y a du PVE contre des créatures.
Et de temps en temps, tu vas tomber sur les anthropomorphes.
Et de temps en temps. C'est du PVP. Et tu... Ben regarde, là, d'ailleurs, dans le trailer, tu vois, quand tu t'apprêtes à prendre l'ascenseur, il y a un petit glitch. Et en fait, c'est ce à quoi ressemblent les autres joueuses et les autres joueurs.
D'accord. OK, bah, très cool. Ça s'appelle Hell is Others. Ça sort aujourd'hui. Quand vous entendrez cet épisode, a priori, ça sera disponible. Et c'est tentatively, on fait beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, enfin d'anglais, recommandé par El Médoc. Par Médoc.
Yes.
Très bien. Merci pour cette recommandation. Et du coup, on passe à Julie qui, elle, a testé pour le monde A Plague Tale Requiem. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Eh ben, en tout cas, ce que je peux en dire, moi, j'avais déjà pas mal aimé le premier, qui reposait beaucoup sur de l'infiltration, des puzzles. Et ça avait du sens parce qu'on incarnait donc un frère et sa sœur. Bonne ambiance, hein, dans la France du XIVe siècle, alors que la peste noire commence à se répandre. Et c'était vraiment intéressant parce que le gameplay servait complètement le jeu et la, pour la suite, ça paraissait logique que le gameplay évolue en même temps que les personnages, même si les événements se passent genre 6 mois après ceux du premier jeu, dans le sens où ils ont grandi, ils ont vécu des traumatismes et ça se traduit bah, notamment par beaucoup plus de phases d'action et des zones un peu plus ouvertes dans cet épisode-là. Et à la fois, je trouve ça ultra logique et en même temps, bah, c'est les points faibles du jeu, je trouve. Moi, c'est malheureusement tout ce qui est infiltration, ambiance, c'est toujours aussi réussi. Les environnements sont à tomber par terre, vraiment. Enfin, c'est
ils ont c'était fait l'un des très, trucs très marquants du premier. Déjà, il était incroyablement beau avec ces meutes de rats qui se marchaient les uns sur les autres. Enfin, c'était super impressionnant. Et là, ce qu'on voit du 2, c'est tout aussi...
Si bah là, c'est absolument magnifique. Ouais, là, on est en Provence, il y a encore plus de rats. Avant, ils pouvaient en afficher 5 000, maintenant, c'est 300 000 rats en même temps sur le même écran. 300
000
c'est, ouais, non, c'est complètement dément, mais effectivement, ça permet de créer des scènes ultra terrifiantes pour quiconque a peur des rats, ce qui est mon cas. D'autant plus qu'ils ont bien exploité le retour haptique de la DualSense pour avoir l'impression que tu te fais grignoter par les rats dès que tu t'approches d'eux. Mais donc vraiment dans l'ensemble c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, je suis juste un peu restée frustrée de certaines phases d'action parce que c'est vraiment le moment où, où on sent que le jeu pêche un peu, enfin, c'est très pâteau et lourd dans les contrôles, donc les phases que j'ai les moins aimées c'est celles qui impliquent des combats un peu longs. Et c'est dommage parce que vraiment ça aurait gagné à être épuré, c'est juste qu'ils ont tellement voulu offrir plusieurs options aux joueurs, ce qui fait qu'on se retrouve donc entre sa fronde et son arbalète à choisir son type de projectile et ça donne des moments pas très très beaux en jeu. Mais sur le reste par contre, enfin vraiment sur le scénario et notamment sur la dernière partie du jeu, on atteint des sommets horrifiques, enfin vraiment moi que j'espérais pas du tout. Et ça m'a vraiment fait oublier bah, tous ces côtés qui m'ont énormément frustré et énervé, ce qui fait que du coup moi je reste sur une bonne impression du jeu. Mais voilà, faut quand même être préparé à ça, quoi.
D'accord. Donc quand même, t'as l'air de dire que c'est un projet. On me signale d'ailleurs sur la chatroom qu'il est dispo dans le Game Pass aussi. C'est vrai que c'est Asobo qui a une relation assez proche avec Microsoft, puisqu'ils ont fait aussi Flight Simulator. Exactement. Mais du coup, oui, s'il est dispo dans le Game Pass, c'est cool. Mais oui, au final, là, t'avais l'air d'être un petit peu ambivalente. J'ai l'impression que tu pêches par excès de prudence presque. Tu l'as aimé quand même, le jeu, dans ton test du monde.
Ah oui, je l'ai aimé.
Plutôt positif,
je l'ai vraiment aimé. Mais dans le sens où moi, par exemple, le côté ultra narratif du jeu et dirigiste m'a jamais vraiment dérangé. Dans le 1, en tout cas, ça, j'avais beaucoup aimé l'aspect jeu couloir. Dans le deuxième, bah, je trouve qu'on retrouve vraiment effectivement ce côté ultra porté sur la narration et dirigiste par moments malgré quelques zones plus ouvertes. Et ça, vraiment, de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'ils ont complètement dépassé mes espérances. Après, bah, justement, ouais, sur les phases action et le côté un peu plus ouvert, c'est pas la partie que je retiens du jeu. Mais j'ai vraiment trouvé pour moi ce qui faisait l'ADN du premier avec, je trouve, un scénario porté au nu vraiment sur la fin, quoi.
D'accord. Bah, écoute, donc, si vous avez aimé le premier, je crois qu'il semble être largement recommandable, si vous savez à quoi vous attendre. Et puis, de toute façon, pour ceux qui ont le Game Pass, c'est à tester, quoi. À tester, exactement, au moins, pour voir de quoi il en retourne. Bah merci pour ce petit topo sur A Plague Tale Requiem, qui n'est donc pas parfait, mais attrayant. Pour ma part, j'ai joué pas mal à Marvel Snap. Est-ce que vous savez ce que c'est que Marvel Snap, tous les deux ? J'ai l'impression que ce n'est pas trop votre type de jeu, ça.
Je vais découvrir.
Très ouais, bien. Je vous dis tout. Marvel Snap, c'est un jeu de cartes sur mobile et sur PC. Il est dispo sur Steam également, qui était disponible en Early Access depuis plusieurs mois dans certains pays, mais qui est disponible maintenant partout, y compris chez nous. Et c'est un jeu de cartes sur mobile qui a été développé par Ben Brode et ses amis. Et vous connaissez peut-être le nom de Ben Brode si vous avez suivi Hearthstone, puisque c'était le directeur de l'équipe qui a conçu Hearthstone chez Blizzard il y a presque 10 ans maintenant. Et du coup, ils sont quittés Blizzard il y a quelques années. Ils ont fait un deal avec Tencent et Marvel pour créer un jeu Marvel sur mobile. Et Marvel Snap, c'est le résultat. C'est vraiment un jeu super intéressant. Je crois qu'il faut être un petit peu intéressé, intrigué par les jeux de cartes au moins, ou au moins la stratégie, on va dire. Mais si c'est votre cas, c'est quelque chose qui prend des risques et des décisions assez radicales, entièrement au service de la plateforme mobile. Et ces risques et ces paris, je trouve, payent complètement. Les décisions risquées, enfin les décisions, comment dire, radicales sont vraiment justifiées dans les sensations de gameplay et dans l'utilisation qu'on a de la plateforme. Pour résumer très rapidement de quoi il en retourne et pourquoi c'est aussi radical, vous savez que dans les jeux de cartes habituellement, et d'ailleurs Hearthstone en a généré toute une industrie, hein, le succès de Hearthstone a créé tout un tas de copycat et même un genre, enfin on voit des cartes absolument partout, même dans des jeux qui ne sont pas des jeux de cartes, et bien là, Hearthstone en fait simplifiait beaucoup le gameplay de Magic, dont il s'est largement inspiré, mais le rendait beaucoup plus accessible. Et bien Marvel Snap fait à Hearthstone ce que Hearthstone avait fait à Magic. Il simplifie énormément il simplifie les règles sans sacrifier, en tout cas des impressions que j'ai eues jusqu'à maintenant et de ce qu'on entend dire, la complexité et la profondeur du jeu. Et il y a des choix hyper intéressants, comme par exemple, on a des decks de 12 cartes au lieu de 30 dans Hearthstone ou 60 dans Magic. Donc 12 cartes, c'est très simple, sauf que toutes les cartes, ou quasiment toutes les cartes, ont des effets spéciaux. Donc on n'a pas les cartes filler qu'on va utiliser pour remplir le deck. Là, elles sont toutes importantes, elles ont toutes des effets et elles vont toutes avoir des interactions. Elles ont toutes des interactions qui sont relativement simples, mais on a aussi sur l'aire de jeu 3 zones à conquérir. Donc pour gagner la partie, il faut en gagner 2 des 3. Et chaque zone a aussi des effets particuliers, des effets spéciaux, un petit peu comme les cartes l'ont dans Magic ou Hearthstone. Donc ça ajoute de la complexité, mais sans rajouter de la complexité dans votre deck. Et elles sont sur les zones en question. Et le jeu se joue en 6 tours. Chaque tour, alors vous avez une minute pour mettre votre carte, mais généralement, ça prend moins de temps que ça. Donc vous avez 6 tours seulement. Ça monte en mana, en énergie, à 6, hein, évidemment, comme partout. Donc c'est beaucoup plus rapide que les jeux sur ordinateur. Et vous avez aussi des mécaniques pour vous encourager à arrêter de jouer. Enfin, arrêter la partie, ce qui est marrant, mais il y a un système le système de snap qui vous permet de doubler la mise, en fait. Le nombre de cubes que vous allez mettre en jeu, et le nombre de cubes, en fait, c'est votre niveau en compétitif. Et donc, si vous sentez que vous commencez à gagner un petit peu la partie, vous allez doubler le nombre de cubes. Ça commence à 1 et puis ça peut aller jusqu'à 8 parce que le dernier tour augmente aussi. Chacun peut snapper une fois, vous et votre adversaire. Et du coup, quand vous voyez que l'adversaire a snappé, bah vous pouvez dire « Ok, moi j'arrête de jouer, je le sens pas, donc je me retire de la partie. » C'est une mécanique de jeu intéressante parce qu'on essaye de deviner si l'autre essaye de nous bluffer ou machin, mais ça a aussi des conséquences dans le game design parce que ça veut dire que les parties en moyenne sont plus courtes. Donc si vous êtes dans le bus et que vous arrivez à votre arrêt, bah une partie plus courte, ça vous arrange. Pareil si vous attendez chez le médecin, etc. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on parle de cet aspect du jeu mobile et des parties courtes. Là, les parties, elles font en moyenne 3 minutes, quoi. Même pas. Il y en a qui sont plus courtes que ça. Et on parle des vrais jeux de gamers, de vrais gamers, quoi, qui sont courtes parce qu'on est sur mobile. Mais c'est très, très rare en réalité. La plupart des vrais jeux qu'on aime bien sur mobile, c'est souvent des parties plus longues parce que c'est des adaptations de mécaniques ou de jeux PC-console. Là, c'est pas du tout le cas. Et donc, les parties sont vraiment courtes. Et j'ai fait peut-être, je sais pas, 25-30 parties. C'est une profondeur qui n'est pas du tout sacrifiée. C'est fun. C'est bien foutu. Il y a quand même quelques bémols. Il y a genre 3-4 monnaies différentes, des battle pass auxquels on ne comprend pas grand-chose au début. Enfin, il y a cet aspect un petit peu frustrant du jeu mobile qui est quand même présent. Mais je dirais que c'est beaucoup moins sur votre chemin pour l'appréciation du jeu que ça peut l'être dans d'autres jeux. C'est un truc à part, quoi. Le jeu en lui-même, vous commencez à jouer tout de suite, c'est fun tout de suite. Vous montez vos cartes de niveau, et quand on monte les cartes de niveau, c'est juste l'apparence qui change. À ce stade, moi, j'ai encore une fois, peut-être que ça coûte très cher à terme. À ce stade, c'est pas le cas. Mais je peux pas parler du endgame, on va dire, encore. Mais au début, ça a l'air relativement gérable, même sans mettre de sous du tout, d'ailleurs. Il y a aussi des bots au début. Certains critiquent parce que c'est très, très long, les bots. Moi, j'ai fait, je disais, 25-30 parties. Je suis encore contre des bots, je crois. Et on pourrait dire, ah ben, c'est frustrant. Attends, je veux jouer contre des vrais joueurs. Le jeu est tellement... c'est pas qu'il est compliqué, mais il y a plein de petits trucs qu'il faut comprendre et auxquels il faut s'habituer. Je suis pas du tout contre le fait de me laisser le temps de me mettre dans le bain avec des bots. Et puis enfin, graphiquement, il est vraiment plaisant. Les personnages, alors moi j'aime bien Marvel, hein, j'ai essayé plein de jeux Marvel sur mobile, ils m'ont tous rebuté, ils sont tous compliqués, ils sont tous un petit peu frustrants. Là, on a le plaisir de Marvel avec les personnages, des animations dans les cartes, etc. Et ça fonctionne du coup pour cet aspect-là aussi. Mais vraiment, le plus important, c'est que le jeu est un jeu de cartes fun et rapide. Vous m'auriez dit il y a 3 ans, est-ce qu'il est possible de faire un vrai jeu de cartes profond avec des parties qui durent 3 minutes? J'aurais dit mais non, enfin c'est pas non, tu peux pas. Et ben là, tu sens à quel point les gens de Second Dinner, donc la nouvelle société de Ben Brode et son équipe, sont non seulement ils connaissent les mécaniques de ces jeux, mais en plus ils maîtrisent le game design de ces jeux. C'est très impressionnant parce qu'on a eu plein de jeux de cartes qui sont sur la ligne soit de Magic, soit sur la ligne de Hearthstone. C'est un petit peu les et après il y a des à côté des trucs, mais et là il change. Alors ça reste un jeu de cartes, mais il change un petit peu de playground, de catégorie quoi. C'est un truc qui est encore un petit peu différent. Et ça fonctionne. Donc Marvel Snap dispo sur tous les mobiles et sur Steam, gratuit. Et vraiment un bon moment, moi je trouve très convaincant à ce stade le jeu.
D'accord.
Ok.
S'appelle Marvel Snap. Est-ce que je voulais bien vendu?
Bah tu l'as pas mal vendu en vrai. Hein. Enfin, c'est pas du tout mon genre de jeu, mais j'avais envie d'y croire.
Mais il y a une dimension. Enfin, tu dois. Il y a une dimension pay to win un peu dans le jeu, dans ce style de jeu de cartes où, avec des currency que tu dois acheter. Enfin, si tu payes, tu avances plus vite, tu fais évoluer plus vite tes cartes. Peut-être un côté aléatoire, quelque chose. Ou alors, c'est pas le genre de jeu.
Un petit peu, disons que tu fais progresser ton niveau de ton rang de joueur en améliorant graphiquement les cartes. C'est un petit peu bizarre comme système. D'accord. Mais sur ce ladder de niveau, il y a des nouvelles cartes qui arrivent. Et si tu payes, tu peux améliorer l'apparence des cartes. Tu vois ? Donc, c'est limité, c'est très limité. C'est-à-dire que si tu payes, tu as 3 cartes par jour dont tu peux améliorer l'apparence. Et à force, dans ta collection, bah, ça finit par te faire monter un petit peu plus vite. Pour améliorer les cartes en général, il faut avoir joué. Et il faut avoir joué pour faire monter ton rang. Donc, tu pourras peut-être avoir effectivement des nouvelles cartes plus vite si tu payes beaucoup. En pratique, j'ai pas l'impression... C'est difficile à dire, je dirais. Ouais. Moi, je crois que tu peux tout à fait t'amuser sans payer, j'ai l'impression, yes. À ce stade. C'est difficile à dire sur le long terme si tu montes... chaque jour, tu vas faire monter les 3 cartes que tu peux faire monter en payant plutôt que de ne pas payer. Peut-être que oui, au bout de 2-3 mois, tu auras toutes les cartes. Mais en même temps, les gens qui vont commencer à jouer maintenant, ils auront plus de cartes que les gens qui vont commencer à jouer dans 3 mois, tu vois, parce qu'ils font monter leur niveau. Et puis, tu seras matché contre des gens qui sont plus ou moins de ton niveau. C'est toujours un peu compliqué. Mais oui, techniquement, tu peux monter un petit peu plus vite que les autres si tu payes. Pas un truc... c'est pas... On me dit sur le chat, du coup, c'est un gacha. Non, pas du tout, pas du tout. Les cartes...
Ouais, non, mais voilà, c'était ma question.
Ouais.
C'était ma question, ouais.
Les cartes, quand je dis faire monter de niveau, c'est le niveau d'apparence. C'est-à-dire que la carte, à la base, elle est plate. Tu vas pouvoir faire sortir le perso du cadre de la carte, ensuite la mettre en 3D. C'est ça que tu montes.
Yes.
T'as pas des cartes plus fortes quand tu les fais augmenter de niveau. Hein, ce que je... Sois clair là-dessus.
Ah d'accord, c'est uniquement, tu veux dire que c'est uniquement esthétique, c'est juste
oui,
genre
oui.
La carte elle est plus stylée, mais elle a les mêmes propriétés.
Complètement.
Ah d'accord,
complètement.
Ah bah non, mais
oui. Oui, dans ce cas, c'est ouais.
D'accord. Mais alors attention, attention, quand tu fais monter de niveau toutes tes cartes, ça fait monter ton rang de joueur, enfin ton rang sur ton niveau de ton deck en fait, et quand tu montes de rang, c'est comme ça que tu obtiens de nouvelles cartes.
D'accord,
Du coup, en montant ton rang esthétique, tu vas obtenir de nouvelles cartes que tout le monde peut avoir, hein, mais en montant le rang.
Ouais.
Et il y a un petit moyen dans le store, chaque jour, normalement il faut jouer pour faire monter les cartes, mais chaque jour tu peux faire monter 3 cartes en payant uniquement une monnaie que tu peux avoir en payant une monnaie réelle.
Ouais,
et c'est
ouais,
juste
ouais,
3
ouais.
cartes, donc c'est pas que tu vas tout de suite monter niveau 500. Mais...
Ouais.
Du coup, en montant le truc esthétique, tu vas pouvoir avoir accès à d'autres cartes auxquelles les autres joueurs n'auront peut-être pas accès s'ils n'ont pas payé, ou alors ça leur prend plus de temps, voilà. Donc il y a ce petit aspect.
Ok, comme... j'ai compris. Yes.
Bon, disons que le truc que j'ajouterais, c'est que si vous n'êtes pas fan de jeux de cartes, si vous n'aimez pas, si ce n'est pas genre « Ah, j'ai joué à Hearthstone, j'aimais bien, maintenant j'y joue plus, j'aimerais bien un petit truc dans le métro », Enfin, il faut être connecté à Internet hein, pour jouer. Mais si vous êtes dans un endroit dont le métro est connecté à Internet, si vous n'êtes pas déjà fan de ce style de jeu, ce n'est pas pour vous. C'est clairement un jeu de cartes, stratégie, un petit peu, comme je disais, un petit peu complexe dans la profondeur. Donc voilà, ça c'est un truc qui va parler aux fans de ce genre. Et peut-être que certains vont le découvrir grâce à ça, ce jeu-là, qui est peut-être un peu plus accessible, mais ce n'est pas un truc qui va vous amener à ce genre si vous n'êtes pas déjà relativement client.
D'accord.
Voilà, et on me dit dans la chatroom, de ce que j'ai vu, j'ai pas de carte payante, il n'y a pas de carte payante, c'est que des skins. Encore une fois, ils sont vicieux hein, dans tous ces modèles. Il n'y a pas de carte payante. Mais en payant, on peut faire monter le niveau de son deck esthétique, ce qui vous donne accès à des cartes plus vite, parce que les nouvelles cartes, on y accède quand on monte le niveau du deck. Donc, il y a quand même un petit aspect comme ça. Bref, l'autre jeu auquel j'ai joué, mais alors là, c'est vraiment, je vais en parler en deux secondes, parce que j'ai joué, je l'ai à peine lancé, c'est Scorn, qui était un des jeux annoncés avec
oui,
la...
Ah oui, pareil.
Alors, c'était, vous vous souvenez, l'un des jeux annoncés avec la Xbox Series. C'est un jeu dont l'ambiance est incroyable, mais vraiment incroyable, qui est hyper beau artistiquement. Bon, on a tous parlé de Geiger, c'est, voilà, c'est lui en jeu. Mais je crois qu'il n'est pas pour moi. Quoi. L'ambiance est cool. Le gameplay, c'est des puzzles. Alors, ce que tous les tests disent, c'est les puzzles sont super cool, les combats sont super chiants. Et moi, les puzzles m'ont déjà à la base un petit peu pris la tête.
Ah, moi, je suis avec toi. Je suis pas hyper fan des puzzles non plus. Hein. Ouais. Bah, je suis comme toi, ultra fan de l'ambiance, etc. Mmh. Puis c'était un peu la crainte avec ce jeu, quoi. C'est est-ce qu'on va avoir un jeu avec une super DA et pas de gameplay ? Bon, il y a du gameplay, mais effectivement, je suis pas hyper séduite par les puzzles non plus. Enfin, moi, j'ai envie de faire autre chose dans cet univers et je me réjouis plus. Justement d'avoir mon gun organique chelou et de voir ce que donnent les phases de tir, bon, qui apparemment sont pas hyper réussies.
C'est ça.
Ouais. Ah, merde.
Mais il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Enfin, beaucoup, non. C'est exactement le genre de jeu qui trouve son public, qui plaît pas vraiment aux autres, mais qui plaît beaucoup aux gens. C'est le genre de jeu qui crée des débats parce que on va le noter, je sais pas moi, 6 sur 10. Et donc, les gens vont dire « Ah bah, il est nul », mais c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est pas pour tout le monde. C'est juste qu'il est peut-être pas pour vous, mais il y a des gens qui vont l'aimer. Je pense qu'on est vraiment sur cette catégorie de jeu, quoi. Donc voilà, je l'ai testé un petit peu, mais ça vaut le coup. Il est sur le Game Pass aussi, hein, comme on parlait de Plague Tale Requiem. Ça vaut le coup de le lancer juste pour voir, quoi. En plus, il est Game Pass et...
Bah, ne serait-ce que pour s'immerger dans cet univers visuel complètement fou, ouais. Comme tu l'as dit, Giger en jeu, quoi.
Ouais, c'est vraiment réussi.
Il y a quelqu'un sur le chat qui dit retour du genre de jeu game passable. C'est un truc à toi, ça.
Ouais. Non, c'est les jeux passables. Tu vois, alors attends, on me le dit, je vais pas. C'est
OK parce que c'est sur le Game Pass.
Ah, mais attends.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est un jeu passable. Voilà, c'est ça. C'est un jeu passable. Et les jeux passables, c'est les jeux qui sont cool, mais que t'aurais pas testé s'il était pas sur le Game Pass. Genre, tu vas pas aller le payer, mais s'il est sur le Game Pass, t'es super content qu'il y soit et tu vas le tester. Tu vas peut-être même le découvrir et l'apprécier. Ouais, c'est ça, les jeux passables.
C'est une super catégorie.
Écoute, tu peux me la voler. C'est cadeau, c'est grave. Tu vois, je suis quand même un petit peu, tu vois, truc libre.
Tu partages, non ?
Ouais, c'est ça. J'ai méchant. Donc, c'est un jeu passable, mais exactement, c'est exactement ça.
D'accord.
Bon, bah écoutez, on va faire la section news, le reste des news, un petit peu rapidos. Et voilà, là, c'est détente avec quelques infos. Je vais passer quelques news et puis je vous laisse l'occasion de m'en dire quelques mots. D'abord, on apprend avec toujours ces histoires de CMA en Angleterre qui étudie l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft, que Microsoft compte construire une plateforme mobile de vente de jeux, un store mobile de vente de jeux. Alors, on ne sait pas comment exactement, parce qu'on ne peut pas faire des apps de jeux de streaming, des apps de jeux de streaming dans l'App Store, et même il n'y a pas de store disponible sur l'App Store, et même sur Android, c'est compliqué, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que ça sera sur le web ou machin ? Ils sont en train de travailler là-dessus. Puis une autre news, genre de l'industrie, c'est que Nvidia, qui avait annoncé sa RTX 4080, qui était en fait deux cartes différentes avec deux vraiment catégories de puces différentes, et bien finalement, retire le lancement de la version 12 Go et il n'y aura que la 16 Go qui sera en vente parce que la 12 Go était pas juste 12 Go, elle avait aussi moins de cœur. Donc ouf, on comprend mieux ce qui se passe. Peut-être qu'ils la remettront en vente, genre 4070 à terme. Je crois qu'il y a aussi pas des ventes folles sur les 4000, donc peut-être qu'ils se sont dit, OK, on n'a pas besoin de sortir celle-là. Quelques annonces de jeux, Minecraft, enfin annonces et nouvelles infos. Minecraft Legends, qui avait été annoncé cet été, je crois, au Summer Game Fest, dont on a vu plus de détails, qui est assez intéressant. Au final, Minecraft Legends, ça a l'air d'être un jeu. Alors, ils appellent ça comment ? Un action strategy game. C'est dans l'univers de Minecraft, vu de dessus, c'est un jeu complètement différent. Et on contrôle un personnage qui va faire de l'action stratégie avec gros accent sur stratégie. On va modéliser le monde, récupérer des unités, les envoyer combattre contre les créatures qui sortent des rifts, les piglins, c'est ça. Vraiment, je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est pas un jeu, c'est pas un RTS. C'est vraiment, enfin, si en pratique c'est un RTS, mais c'est beaucoup plus orienté sur l'action. Et c'est un look qui fonctionne avec le look de Minecraft. Donc à voir, il devrait arriver en 2023, si je ne m'abuse, au printemps 2023. Donc à suivre, je vais continuer avec les autres. Le Sims 4 va avoir encore deux extensions, mais surtout Sims 5 a été annoncé, pas pour tout de suite. Hein. Sims 5, c'est le projet René, qui sera disponible dans plusieurs années, mais ils ont commencé à le développement de Sims 5. Il faut savoir que Sims 4, c'est vraiment un mastodonte. La version de base devient gratuite, là, depuis hier ou aujourd'hui, et continue à sortir des extensions. Et enfin, nouveau jeu Mortal Kombat. C'est pas un jeu de combat, c'est un RPG sur mobile. Ça s'appelle Mortal Kombat Onslaught. Un RPG sur mobile, OK, pourquoi pas, on n'a pas d'image. C'est marrant, quand les grands studios annoncent des jeux mobiles, ils mettent jamais ni de gameplay, ni d'image, ni rien. C'est juste genre pour prévenir les gens, on va faire un jeu mobile, vous excitez pas, nous engueulez pas, voilà, maintenant vous savez, toute petite annonce, et comme ça, quand on montrera le jeu plus tard, les gens pourront dire, mais non, mais on savait, vous énervez pas, c'est bon, ça fragmente l'annonce pour que les gens ne s'énervent pas, je crois. Donc voilà, quelques petites annonces, si vous avez des choses à dire, je t'entendais réagir, Julie.
Ah non, je rigolais, d'accord. Juste.
Tu rigolais, tu.
J'étais médisante dans mon coin, c'est terrible. Mais ah, je vais continuer à l'être parce que je sens la prochaine news arriver.
D'accord. Très bien, très bien. Et ben on continue dans ce lightning round. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire. La manette sans fil DualSense Edge coûtera.
Ah yes.
Alors, si vous ne connaissez pas,
essayez d'imaginer ça.
240 euros, pardon, 239,99 €. Alors, on s'imaginait, vous savez, la DualSense Edge, c'est cette manette qui a été annoncée il y a 3 semaines, 1 mois, qui est un petit peu l'équivalent de la Xbox Elite 2, qui, elle, vaut 150, 170 euros, quelque chose comme ça. On savait bien qu'elle allait être un petit peu plus chère, mais une manette à 240 euros, oui, c'est le prix d'une console, quoi.
C'est chaud. Et pourtant, j'adore la DualSense, j'adore le retour haptique. Ouais. Vraiment, je pourrais défendre pendant des heures. Et je comprends que c'est censé être une offre premium et customisable, mais le prix est tellement rédhibitoire. Quoi. Enfin, ouais, comme ça. Tu dis, moi, je pensais peut-être qu'on allait se retrouver avec un truc à 150 euros, mais je pensais pas qu'il pousserait le culot jusque-là.
Non, c'est effectivement très cher. Et je le dis, alors même que je fais partie de ces gens qui ont fait. J'ai même fait il y a quelques semaines une hot take. Sur le Twitch de Arte et qui propose des émissions de jeux vidéo régulièrement, une hot take en disant que de manière générale les manettes PlayStation avaient toujours été meilleures que toutes les autres manettes et le seront toujours. Donc vraiment je suis quelqu'un et c'est une histoire de c'est une histoire de stick, de choix de stick, etc. Mais là même moi je trouve ça trop cher. C'est trop cher.
Ah 239, oui. Moi, j'aime beaucoup l'ergonomie de la manette Xbox, et en particulier la manette Xbox Series. Mais oui, les manettes PlayStation sont quand même super cool. Et à choisir, je crois que ça serait mon choix aussi. Mais oui, 239. Moi, à vrai dire, c'est marrant parce que sur le Discord, ça nous a fait revenir un débat qu'on a depuis quelques mois, quelques temps, sur le prix du PSVR 2. Et moi, je dis toujours, ça sera 299 a priori, allez, au plus cher, 399, le prix de la console, quoi. Et plus ça va, plus je me dis, mais...
ils vont augmenter le prix de la console 2 ans après.
Ah oui, mais imagine, 2 ans après, Deux ans, il faut bien se rendre compte quand même. Deux ans.
Mais c'est
après,
l'impression, mon bon monsieur.
Ils augmentent, mais c'est un truc de dingue. Alors que la console, on n'a même pas encore vu en France. Bah, je veux dire, on est combien à l'avoir ? Enfin, moi, je l'ai.
Quatre. On a les chiffres.
Je suis privilégié, mais c'est un truc de dingue. Donc, évidemment que si, tout sera cher avec Sony. C'est comme ça que
et
ça se passe.
C'est marrant parce que ça apporte tellement de l'eau au moulin de Microsoft qui disait, on en parlait la semaine dernière justement au CMA. Sony est tellement market leader qu'ils peuvent se permettre de monter le prix de leur console et de, voilà, ils s'en foutent, quoi. Et là, avec cette manette à 240€, enfin, ça apporte de l'eau à leur moulin, quoi. Bref, voilà, si vous la vouliez, bah, peut-être que vous ne la voulez plus. Autre scandale, messieurs, dames, Gotham Knights sera limité à 30 images secondes sur console. Et pourtant, c'est un jeu qui est uniquement sur les consoles next-gen. Vous vous rendez compte ? Des manettes à 240€, des jeux next-gen à 30 images secondes, mais où va le monde ?
On est où, là ?
Eh oui ! C'est marrant parce que je faisais au lancement des consoles quand j'avais ma regrettée chaîne YouTube où je faisais des trucs toutes les semaines quand j'avais le temps. J'avais fait une vidéo avec mes Duplos, là, où j'expliquais que la puissance des consoles n'a rien à voir avec la fréquence d'affichage. À chaque nouvelle console, il y a des gens qui disent « Ah, mais 60 images secondes cette fois-ci, c'est bon, pas de problème. » Et j'expliquais pourquoi ce n'était pas le cas. Et c'est marrant de voir des jeux arriver qui vont mettre le paquet sur la qualité graphique ou d'autres choses, et plus forcément sur la fréquence d'affichage. Bon, on survit hein, en 30 images secondes, soyons honnêtes.
Ouais, alors moi, j'ai discuté, c'est marrant, parce que j'ai discuté vraiment avec des profils différents. J'ai déjà discuté avec des gens qui me disaient... qui me tenait mordicus, les propos de non, il y a une réelle différence. Moi, je
mais
supporte pas les jeux. Non, mais c'est-à-dire là, je te parle de personnes extrêmes. C'est-à-dire moi, je supporte pas. Moi, je pisse littéralement à longet. Je pisse à longet sur les jeux qui proposent que du 30 FPS, etc. Et d'autres qui me disaient et parfois même et qui étaient un petit peu dans l'audiovisuel et tout, qui me disaient oh, franchement. Franchement, faut arrêter, quoi. C'est très bien, 30 FPS, ça va.
Ce qui est dur, en fait, c'est quand t'as un truc en 60 FPS et que tu repasses en 30 juste après. Tu commences en 30, tu bouges jamais, t'es super content. Il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est ça le... Bon.
Ouais. Mais... j'ai pas assez l'œil, je t'avoue que j'ai pas assez l'œil. On m'a déjà montré, hein. On me dit, regarde, ça c'est 30. Ça, maintenant, c'est 60. Bah, je sais pas, je dois avoir un problème au niveau de la cornée.
Ah oui, c'est une bénédiction cachée, en fait. C'est que tu peux tout... Mais oui, parce que tu peux tout passer en résolution max, machin, t'es en 30, t'es content.
Yes.
Quoi d'autre ? Netflix reprend le flambeau de Google et veut possiblement, ils explorent l'idée de lancer un service de cloud gaming. Ils ont même ouvert un studio en Californie, donc ils y vont à fond. Hein. Peut-être qu'on aura, un service cloud gaming chez Netflix. Et puis quelques news sur les jeux services qu'on n'a pas forcément le temps ou l'envie de développer. Peut-être qu'on parlera un petit peu de ça dans un after show. Destiny 2 a une update Halloween. Alors, j'en parlerai pas si c'était pas regardez-moi, allez voir le trailer avec les armures. C'est des armures Gundam, mais qui sont d'une beauté. J'ai envie de relancer Destiny 2, mais qu'est-ce qu'elles sont classe! Il y a un event là Halloween et on peut gagner les armures, mais il faut que j'y aille, quoi. Et pourtant, je suis même pas spécialement fan de Gundam, mais regardez ça. Allez voir le trailer.
Elles sont cool.
Elles sont cool, non?
Ouais.
Bon, très bien. T'es un joueur de Destiny ou même pas?
J'ai traîné longtemps sur... Maintenant, ça fait des années que je n'y ai pas touché.
D'accord.
Mais Destiny 2, à sa sortie, j'ai traîné.
Bah, c'est l'occasion, vas-y, il va prendre les armures de Gundam. Vas-y.
Pourquoi pas.
World of Warcraft commence à lancer ses pré-patchs pour Dragonflight, donc ça arrive. Apex Legends a introduit un personnage, une nouvelle légende, trans. Donc, vous voyez, ça commence à avancer. Et d'ailleurs, tiens, un petit mot sur Overwatch 2 quand même. Ils ont annoncé qu'il y avait 25 millions de joueurs qui avaient joué au jeu en 10 jours. Alors, on ne sait pas combien vont rester, mais c'est quand même un chiffre impressionnant malgré les problèmes du lancement. Et du coup, j'en profite pour dire deux choses sur Overwatch 2. D'une part, quand on parle de progrès dans le domaine des jeux vidéo et de représentativité, etc., souvenez-vous que Gamergate, c'était il y a moins de 10 ans. Et Overwatch 2 a été lancé avec trois nouveaux personnages, c'était trois femmes. Personne n'en a parlé. Pourquoi ? Parce que ça fait chier personne. Enfin bon, peut-être qu'il y a des gens qui machin, mais parce que c'est
chier des gens, mais
bah tu sais ça spécifiquement, tu vois. Et évidemment, oui, il y a des connards, mais je veux dire, c'est un truc qui a été même pas... Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Overwatch 2 et qui ont parlé de beaucoup de problèmes, mais ça, personne ne l'a remarqué. Et pour moi, c'est un signe que, mine de rien, même si on n'a pas l'impression, même s'il y a toujours beaucoup de problèmes, même s'il y a encore, évidemment, énormément de progrès à faire, c'est un signe que, depuis 2014, dont c'était le problème principal dans le Gamergate, eh ben, les choses ont quand même changé. Bon, Overwatch est particulièrement bien...
Tout à fait.
Et puis l'autre chose que je voulais dire sur Overwatch, c'est qu'on en entend beaucoup parler, beaucoup de gens qui en disent du mal, mais je crois que les gens, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, j'en parle beaucoup parce que moi je suis fan du jeu, les gens qui y jouent sont très très contents du jeu, même s'il y a des petites préoccupations sur les prix des trucs dans le shop, le Battle Pass, machin, dont on a parlé dans l'émission. Franchement, après 15 jours, 3 semaines de jeu, moi je trouve que au niveau du jeu lui-même, du gameplay et du fun qu'on a, il a ramené, comme on l'espérait et comme c'était la promesse, il a ramené le fun sur Overwatch. Et bon sang que c'est bon, quoi. Moi, c'est un truc qui me fait énormément plaisir. J'ai même joué, j'étais en voyage, j'ai même joué sur ma console, sur ma Switch, en mode portable. C'est vous dire à quel point je sacrifie mon... Alors déjà, sur console, c'est pas facile quand on est habitué aux 60 FPS sur PC. Je devrais dire 120, mais j'ai pas un moniteur pour. Mais sur console, c'est déjà pas facile, mais ça passe. Mais bon sang, en mode portable sur Switch, c'est dur de viser, c'est dur. Quoi d'autre ? Halo Infinite, il y a le mode Forge qui arrive en bêta en novembre. Halo Infinite pourra-t-il être sauvé ? Et puis, il y a la campagne de Call of Duty qui commence, Call of Duty Modern Warfare 2, qui se lance aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous précommandez le jeu. Donc, vous pouvez commencer à jouer à Call of Duty. Ça y est, le jeu de l'année pour 95% des joueurs de jeux vidéo avec FIFA arrive. Donc, vous pourrez parler de trucs qu'ils comprennent aux gens que vous rencontrez dans la rue, au bar, dans la cour de récré, tout ça. Et puis, quoi d'autre ? Ah oui, Persona 5 arrive sur le Xbox Game Pass. On parlait de Xbox Game Pass. Alors, ça, c'est pas un jeu passable. Hein. Ça, c'est un... Tu vois, Persona 5, faut pas déconner, faut pas dire de...
Ouais, voilà. Et puis Soma non plus d'ailleurs, enfin, qui débarque aussi je trouve, là on est au-delà du game passable, on est dans les vrais bons jeux, quoi, c'est cool.
Dans la gloire du jeu vidéo, et Capcom a confirmé qu'il y aura un Resident Evil Showcase, c'est quand ? C'est ce soir ! Donc on pourra en parler la semaine prochaine.
Mais quelle fabuleuse période pour les fans d'horreur, enfin moi vraiment je suis trop...
Claire.
Tu vas être devant ton écran ce soir et tu vas regarder ça.
Parce que la conférence précédente avait un peu fait l'effet de celle de Silent Hill, dans le sens où on avait des annonces et pas trop d'images, et là j'attends quand même de voir un peu plus sur le remake du 4.
Voilà, alors oui, est-ce que tu veux te mouiller ? Est-ce que tu sais est-ce qu'on va avoir une surprise ? Attention, parce que quand les gens vont t'écouter, ils sauront déjà. Hein. Mais est-ce que tu penses que genre un nouveau, vrai nouveau jeu ou quoi ?
Bah, je veux vraiment pas me mouiller, hein, parce qu'ils ont déjà annoncé tellement de trucs qui sont censés suivre, bah, notamment le remake du 4, il y a aussi toutes les extensions sur Village. Non, moi, je vais te dire ce que je rêverais de voir, c'est un remake de Code Veronica, parce que c'est celui que j'attends le plus, mais non, sinon...
c'est le prochain sur la liste, non ?
Ouais, normalement, c'est le prochain sur la liste, des plus attendus par les fans. Donc ça, ce serait le meilleur des cas possibles.
Non, mais moi, chronologiquement, je veux dire. Plus... Là, on est le 4.
Non, normalement, justement, ça aurait dû être avant le 4, ouais.
Ah oui, mais oui, raison,
ils avaient fait un sondage auprès des joueurs pour dire lequel vous attendez le plus, et les gens avaient dit le 4. Mais Code Veronica arrivait juste après. Mais non, je m'attends plus réalistiquement à peut-être une annonce d'un mode multi dont tout le monde se contrefiche.
Donc voilà. ça fait peu quand même pour peut-être un petit, je sais pas, un jeu portable ? Un jeu mobile, tiens. Un jeu mobile, c'est tout ce que tout le monde attend. Un Battle Royale, qu'est-ce qu'on avait dit ? Un Battle Royale pixel art, roguelite.
Un multi asymétrique dédié. Voilà, enfin non, mais moi j'attends qu'une chose, c'est d'avoir une super bonne surprise, mais comme on l'a dit plus tôt, j'ai trop eu le cœur en miettes pour avoir de l'espoir. Trop d'espoir.
Et je réponds à la chatroom, Persona 5, c'est le 21, donc demain, et pas en 2023. Le 21 octobre, donc Persona 5 Royale sur Game Pass, vous pourrez enfin vous lancer. Que de choses à faire. Vous savez quoi ? On va arrêter de vous embêter avec du podcast et on va vous laisser aller jouer à des jeux vidéo. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, tout de même, bien sûr, un moment pour que mes glorieux invités me disent où on peut les retrouver. Honneur au plus beau, Mehdi, où te retrouve-t-on sur Internet ?
C'est même pas vrai en plus. Mais merci, alors très bien, je prends...
Non mais je peux pas choisir, tu vois, c'est tellement au firmament que j'ai du mal, donc je comprends.
Bah tu m'excuses Julie, je vais d'abord faire ma promo.
Mais bien sûr, attends, tu rigoles. Donc, en plus je t'ai vu en vrai, hein. je sais que Patrick ne ment pas.
Alors, du coup, si vous voulez voir mes jolis traits, la finesse de l'arête de mon nez, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch Alice Blaze, sur laquelle je joue avec l'ami Moguri, Kevin, hein, que tu connais aussi, Patrick. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà croisé, Julie, avec Kevin.
Ben si, ouais, après l'émission Canard PC, on a eu l'occasion.
Ah, voilà. Donc tu vois que c'est une. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon, tu sais que c'est une personne très charmante et pleine
absolument
de ressources.
Absolument charmante.
Donc chaîne Twitch Alice Blaze. Et puis sinon, évidemment, toutes les deux semaines, le Cozy Corner, le podcast à écouter sur n'importe quelle plateforme qui propose du podcast. Voilà, c'est ce qu'on fait avec Kevin.
Magnifique, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission également. Julie, où te retrouve-t-on?
Oui, pour voir ma mâchoire carrée et mes cheveux flamboyants, vous pouvez aller sur Twitch avec le pseudonyme Hélène Ripley. Et sinon, je suis sur Twitter sous le pseudo ICTH, qui est toujours le pire pseudo de l'histoire de Twitter.
Tu sais que je viens de me rendre compte que c'était pas Itch. C'est ICTH,
mais, oui, mais
tu l'as dit,
tout le monde me dit ça.
Ça fait des mois que tu me le dis, mais je m'en suis rendu compte maintenant.
C'est bon. Et c'est normal, parce ICTH. Que ce pseudo n'a absolument aucun sens et en plus provient et tiré directement du titre de mon Skyblog. Enfin, c'est te dire à quel point je l'ai sorti du chapeau celui-là. Mais
bon. D'accord.
Et voilà.
Très bien, donc ICTH sur Twitch. Non, mais il faut en faire un acronyme. ICTH,
ah oui, sur Twitter et Hélène Ripley sur Twitch, parce que j'ai appris mes erreurs depuis.
Tout à fait, très bien. Il faut en faire un acronyme, ICTH. On va te trouver ça.
C'en est un à la base. C'était parce que mon Skyblog s'appelait Insert Creative Title Here. Parce que je me sens très maline.
Mais voilà,
j'étais en troisième.
Tu dois peut-être en trouver un nouveau.
Il est temps de passer à autre chose.
Ok, merci en tout cas. Donc le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notes Patrick. Vous retrouvez tous les liens dans les notes de l'émission, hein, tout simplement. C'est pratique. Vous avez le Twitch si vous voulez nous regarder en live le mardi midi et le jeudi midi. Vous avez le Discord si vous voulez discuter avec plein de gens super cool. On a d'ailleurs ouvert le forum sur Discord où il y a des threads sur les différents jeux auxquels on joue en ce moment. Il y a notamment Overwatch 2 et Marvel Snap. Donc si vous avez des questions à poser ou des interrogations, ou juste si vous voulez discuter avec des gens, vous allez sur le Discord, il y a plein de gens super cool avec qui parler. Ça, le lien il est dans les notes de l'émission, et puis bien sûr Patreon, patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Vous connaissez, vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites oh, j'ai entendu un cling, ça me fait penser à Patrick. patreon.com/rdvjeux. Ou alors, si vous êtes en train de jouer à Marvel Snap, vous vous rendez compte que votre téléphone mobile, il peut faire plein de choses. Et du coup, vous dites, mais il peut aussi aller m'inscrire sur Patreon. Et là, vous allez sur patreon.com/rdvjeux. Ça marche très bien. Merci à vous tous et à vous toutes. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.